Bien. Avec votre permission, nous allons lancer avec le quart d'heure Poitevin, qui est universel, cette dernière journée de nos rencontres créativité et territoire. Donc juste d'un mot, je ne vais pas redire ce que j'ai dit mercredi à 14h, hier matin à 9h, sur votre présence à l'espace Mendès France. Simplement, vous réindiquez que le travail que vous faites dans cette salle est un travail qui, bien sûr, dans le cadre des missions de l'espace Mendès France, sera largement réapproprié par l'équipe, non pas sous forme de synthèse, mais plutôt pour essayer d'en tirer un certain nombre d'éléments moteurs, dynamisants. On fait une captation image avec Rebecca Sénéchal, ici présente de Real Factory, pour justement, derrière, essayer de permettre une diffusion. L'histoire de l'espace Mendès France montre que dans ces rapports entre science et public, la profusion d'informations sur Internet amène de plus en plus de confusion sur la capacité à comprendre les choses. Donc il y a deux éléments par rapport à ça. Plus personne ne sait tout sur tout. Donc celles et ceux qui sont à la tribune en savent à peu près autant que vous. Donc on compte autant sur la salle que la tribune pour contribuer à mettre du charbon dans la machine de la compréhension. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième aspect, par rapport à vos contributions, j'imagine que le sujet est tellement large que derrière un certain nombre de mots qu'on appelle valise, auberge espagnole, etc., on ne met pas toujours la même chose. Alors on l'a bien vu hier, effectivement, on avait un certain nombre de mots-clés. D'ailleurs, ils sont sur le mur du fond de la salle. Certain nombre de mots-clés ou d'appréciations sur des situations qui amenaient parfois à des confusions qui finalement peuvent permettre aussi le débat. Donc toujours est-il qu'on vous redemandera d'être concis, soit dans vos appréciations, soit dans vos déclarations, s'il y en a quelques-unes, soit dans vos questions, pour permettre à toutes et à tous de pouvoir parler, parce que hier on avait beaucoup d'intervenants, c'était extrêmement dense, heureusement qu'on avait la soirée louisianaise pour pouvoir décompresser de tout ça. Donc encore une fois, un peu de concision, ça permettra aussi de donner la parole au plus grand nombre. Donc merci à toutes et à tous, et puis Virginie, je vous laisse la parole.
Merci. Donc Virginie Beaubriot, je suis chef de projet éducation-formation au CAUE des Deux-Sèvres, donc le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Deux-Sèvres. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette association, donc, qui a, disons, quatre missions principales. Une mission de conseil auprès des particuliers qui souhaitent construire ou rénover, qui peuvent rencontrer un architecte du CAUE sur rendez-vous gratuitement. Une mission aussi de conseil auprès des collectivités sur les projets toujours de construction, mais aussi d'aménagement, d'urbanisme, donc auprès particulièrement des petites communes des Deux-Sèvres, et également une mission de sensibilisation du public, que ce soit les scolaires ou le grand public, une mission qui m'est dédiée particulièrement, et puis aussi une mission de formation, d'information des élus, des techniciens, des professionnels sur ces thématiques. Voilà, donc je remercie Jackie Deniol de m'avoir proposé d'animer cette journée. C'est un exercice un peu nouveau pour moi, je vous avoue. Je suis aussi heureuse de me retrouver ici à l'Espace Mendès France parce que je suis issue d'une formation scientifique et en communication scientifique particulièrement. Donc après avoir travaillé dans ce domaine, je suis maintenant au CAUE et donc j'élargis disons le champ des disciplines aux sciences, donc à l'architecture, à l'urbanisme, à l'environnement, et c'est des choses qui me plaisent beaucoup, cette transdisciplinarité. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur le CIE, on est très sensible à ce croisement des regards et particulièrement deux expériences ou deux actions qu'on a pu mener dernièrement. Un séminaire au mois de décembre 2013 sur le bonheur et dans le projet. J'ai emmené des plaquettes que vous pouvez prendre, qui sont déposées à l'accueil, où justement ont été présentées plusieurs expériences assez riches et sur des projets d'élus ou de techniciens qui posaient aussi la question de l'avenir de l'ingénierie dans les projets publics. Voilà, donc éventuellement M. Counil, qui était directeur du CIE à ce moment-là, pourrait vous en parler. Et puis on a aussi proposé une journée à Bouillé-Saint-Paul dans le nord du département au mois de septembre dernier, notamment avec Franck Buffetot qui était aussi au CIE, qui est présent, sur l'aménagement, l'appropriation d'espaces publics et les approches artistiques. Donc c'était vraiment un temps assez riche d'échanges entre à la fois des élus, des techniciens, des professionnels, des artistes, des associations, donc un public très diversifié qui a vraiment été très, très, très intéressant et très fort. On peut aussi vous en parler si vous le souhaitez. Je n'ai pas pu être présente sur les deux premières journées, donc j'espère que je vais prendre en cours le fil de ces journées d'automne. Et pour commencer, une première table ronde avec quatre personnes sur l'exigence culturelle comme une nécessité pour dynamiser la créativité dans les territoires. Alors, l'exigence culturelle, j'ai repris en fait dans l'abécédaire de l'agence Primatera qui intervient tout à l'heure, comme exigence culturelle, ils indiquent car la recherche d'une certaine excellence constitue une vraie nécessité. Et donc je vais vous demander aux intervenantes de dire en quoi est-ce que cette exigence culturelle résonne dans vos différentes expériences. Donc on a quatre interventions. Nathalie Mansuit Todeschidi. Voilà, responsable de la médiation jeunesse à la médiathèque départementale de Seine-et-Marne. Catherine Simon de l'IRTS de Lorraine, donc Institut Régional du Travail Social de Lorraine. Nelly Margoton, entrepreneur philosophe. Et enfin, Caroline Bailly-Salin, guide conférencière en Touraine. Donc je vous propose de faire une présentation une dizaine de minutes chacune et puis ensuite d'avoir un échange avec la salle. Voilà. Madame Mansuit Todeschidi. Je vous laisse vous exprimer.
Merci. Bonjour, effectivement je suis chargée de la médiation jeunesse à la médiathèque départementale et également je suis responsable du développement territorial de la lecture publique sur le sud Seine-et-Marne et je suis également chargée des collections poésie et théâtre et littérature plus exactement. Merci aux organisateurs de ces journées de permettre au monde des bibliothèques de prendre part à la réflexion sur les enjeux de la créativité dans les territoires à travers mon exposé qui apporte un point de vue. Il est certain que les bibliothèques publiques ont dans ce cadre un rôle important à jouer. Quels que soient les territoires où elles se trouvent, les bibliothèques se doivent d'être des lieux de la pensée féconde, ouverts à l'insolite, où résonnent les œuvres du passé et du présent. Lieu ouvert à la créativité, car on ne crée pas ex nihilo. Et j'aimerais introduire mon propos par cette citation de la poète russe Marina Tsvetaeva, où nous n'allons pas, l'infini régresse. Les bibliothèques sont avant tout des lieux de transmission. Elles sont par essence des lieux où tout un chacun doit pouvoir rencontrer les œuvres de l'esprit, les œuvres du patrimoine, des patrimoines, constitutifs de nos civilisations, mais également les œuvres du patrimoine en train de se constituer et du patrimoine de demain en l'occurrence. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il faut aussi considérer les œuvres écrites et la tradition orale qui est importante aussi à transmettre dans ces lieux. Les bibliothèques françaises, héritières de la philosophie des Lumières, ont toujours, au XXIe siècle, un rôle à jouer dans le domaine de l'émancipation du citoyen. À l'ère du numérique, les bibliothèques publiques sont effectivement impactées par ces technologies qui arrivent. Et les bibliothèques publiques doivent rester notre bien commun. Elles ont intérêt à se situer plus que jamais en tant qu'espace dédié à la culture, aux cultures vivantes, aux écrivains, artistes, chercheurs, défricheurs de tout ordre, aux Fab Labs, on en a parlé hier, on pourrait travailler sur des coopérations, enfin travailler avec des jeunes et des moins jeunes qui œuvrent autour de cette question des Fab Labs. Lieu de vie, lieu de convivialité, troisième lieu, c'est une notion qui rentre maintenant beaucoup en ligne de compte dans les bibliothèques, on a cette notion de troisième lieu. Les bibliothèques contemporaines sont des lieux forums, lieux de débat et de questionnement sur notre monde et notre humanité, où les publics, dans leur diversité, peuvent interagir, s'émerveiller, s'épanouir, s'exprimer, confronter leurs idées et ainsi faire société. Donc à la fois, les bibliothèques ont un intérêt à la fois pour l'individu et pour l'individu dans le collectif. Alors, inventer la bibliothèque de demain, cela doit se faire aussi avec vous, avec les forces vives des territoires. Pourquoi cette injonction de l'exigence culturelle et pourquoi continuer à accorder cette place à la culture dans les territoires? Cela pose la question de la place des arts, des lettres, des œuvres, des savoirs dans notre société. À l'heure où les restrictions budgétaires font rage dans les collectivités territoriales pour cause de crise financière, Pourquoi continuer à employer du personnel spécifique et qualifié, de la filière culturelle en l'occurrence, pour faire fonctionner les bibliothèques? Pourquoi continuer à acquérir, valoriser des collections matérielles et immatérielles auprès des publics avec des partenaires d'horizons divers, du champ social, de l'éducation, associations et bien d'autres? Pourquoi la culture est-elle primordiale en quelque sorte? À quoi sert la culture, l'art, la poésie? Ça sert à rien, comme disait, pourrait dire la môme néant de Robert Desnos. Se poser cette question, cela renvoie à la question de la place des arts, donc dans notre société, et dans la cité et dans les territoires. La culture n'est pas utile pour briller dans les salons. La culture, l'art, la poésie, qui est l'eau de notre seconde soif, comme l'écrivait André Chédide, nous renvoie à notre besoin d'essentiel, à notre humanité profonde. La culture est une force vitale, comme l'écrit Antonin Artaud dans Le théâtre et son double en 1938. Et de même, dans les moments de détresse et dans les moments peut-être aussi qu'on vit aujourd'hui qui ne sont pas toujours faciles, la culture aide les gens à tenir debout. En témoignent les actions de Bibliothèques sans frontières dans les camps de réfugiés, à Lampedusa, où travaillent des bibliothécaires bénévoles. La culture aide à se raccrocher à la vie, à nous humaniser. Et elle nous permet de rester humains, comme durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque, par exemple, Georges Semprin a récité de mémoire un poème à Marc Bloch, son professeur, qui était mourant. Ou le poète Abdelatif Lahabi, qui, dans les geôles marocaines, a tenu grâce à l'écriture. La culture, les arts, la littérature, les œuvres de l'esprit, les œuvres de tradition orale, toute notre richesse, notre vivier, sont une fenêtre ouverte sur le monde et questionnent notre monde. Écoutons le dramaturge contemporain Édouard Bond, auteur de pièces de guerre. Depuis l'Antiquité, on va au théâtre pour savoir ce qu'être humain veut dire. Mon travail est de proposer aux spectateurs des situations problématiques qui permettent de se demander qu'est-ce que je ferais dans ce contexte-là, où est la véritable humanité. Et les hommes et les femmes de l'art et de la culture et du monde de la création, de par leur vision singulière, insolite, décalée sur notre monde, sont des empêcheurs de penser en rond, sont des visionnaires. La culture nous permet, hier on a parlé de faire un pas de côté. Et en même temps, il y a cette notion de visionnaire, l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain, comme disait Victor Hugo, et nous avons besoin d'aller justement vers des territoires de l'inexploré. Et de tout temps, nous avons eu besoin d'avoir recours au symbolique par le biais des œuvres. Et les bibliothèques ont elles-mêmes une charge symbolique forte en tant que lieu des humanités. Elles ouvrent au champ des possibles. Et je renvoie là au livre d'Yves Citon, L'avenir des humanités. En parlant aujourd'hui dans nos métiers de communication, de société de l'information, de l'économie de la connaissance, on laisse souvent penser que le savoir se réduit à une masse de données segmentées, isolées, brevetables et commercialisables, comme n'importe quelle marchandise. Devant cette vision appauvrie et sclérosée, Yves Citon renverse la perspective et révise notre imaginaire du savoir. Il montre que les humanités, souvent considérées comme poussiéreuses, voire inutiles, cultivent une compétence incontournable, celle de l'interprétation. Et c'est ce à quoi nous devons travailler avec notamment les publics et les jeunes en l'occurrence. Donc dans cette société très consumériste, il est donc essentiel qu'il existe encore et toujours ces lieux de gratuité que sont les bibliothèques, qui se situent en contrepoint de la production mainstream. Pour les bibliothécaires, donc, il ne s'agit pas seulement de répondre à la demande des publics en matière de culture, il nous faut aussi offrir, proposer, accompagner, désacraliser, permettre par exemple des lectures à voix haute, permettre des temps d'appropriation, de pratique. Car le public demande rarement d'emblée de la poésie. Demande-t-il d'être confronté à une œuvre de Duchamp, de Basquiat, de Pina Bausch, à la lecture d'un texte d'Hubert Reeves ou d'Edgar Morin? Oui, certainement, quand on lui donne la possibilité. Exigence culturelle, car la bibliothèque se situe autour d'enjeux culturels, éducatifs, sociaux et territoriaux. Et là, je refais un petit clin d'œil au film d'Éric Rohmer, L'arbre, le maire et la médiathèque. Ces dernières décennies, on a construit plus que jamais des médiathèques dans les villages. La bibliothèque en France est en effet le premier lieu culturel de proximité. Et j'ai beaucoup été intéressée hier par les personnes qui représentaient le commerce de proximité. Et j'ai fait un parallèle. Je trouve qu'effectivement, la bibliothèque et la boulangerie, par exemple, le commerce de proximité, ont beaucoup en commun. À l'heure d'Internet, ou par exemple aussi le marchand de vêtements. On peut acheter ses vêtements par Internet. On peut acheter même des produits du terroir par Internet. On peut acheter des livres par Internet. Mais quelle est la plus-value du bibliothécaire ou du marchand de vêtements, par exemple, ben c'est qu'en fait, il a un métier, il connaît son métier. Et aussi, il y a la personne qui vient dans le lieu, il y a une rencontre humaine qui se passe autour d'un savoir-faire et d'un savoir qui se transmet, et on est dans quelque chose qui se transmet en vrai, en réel, et dans la proximité. Donc je pense qu'on a là aussi des enjeux communs et qu'on pourrait travailler ensemble, même avec les commerçants de proximité, autour de cette réflexion. Et de travailler ensemble. Donc la bibliothèque en France, comme je le disais, est lieu de proximité, et en même temps, elle a, toute bibliothèque ou bibliothèque départementale a aujourd'hui un projet d'établissement et a donc une politique documentaire. Et à l'heure d'Internet, il n'est plus pertinent d'avoir en bibliothèque une bibliothèque qui offre une offre encyclopédique. Ainsi, à la médiathèque départementale, on a fait un choix très affirmé en matière de charte documentaire, validé et soutenu par les élus, un choix exigeant et subjectif que nous assumons. Il s'agissait de développer des collections thématiques et nous avons pris le parti d'agir fortement autour de la création contemporaine et des collections suivantes. Je vous cite la poésie, le théâtre contemporain, la bande dessinée et roman contemporain, les livres singuliers pour la jeunesse, le film documentaire, les langues étrangères, l'actualité au filtre des sciences humaines et l'actualité au filtre des sciences et techniques. Et nous ne nous sommes pas limités à être des gestionnaires ayant le souci de l'efficacité du service public. Nous ne nous sommes pas réduits à être des techniciens du livre, à maîtriser les techniques bibliothéconomiques. Nous avons creusé notre sillon autour des axes documentaires. Nous nous sommes attachés à connaître en profondeur les domaines que nous souhaitions valoriser, avec chacun des compétences. Moi, par exemple, je suis plutôt spécialisée littérature de jeunesse, poésie, théâtre. J'ai d'autres collègues très pointus sur l'image. On a chacun nos domaines de compétences que nous creusons. Nous insistons sur notre rôle de passeur culturel et développons des capacités de médiateur et de producteur de contenu. Ainsi, nous alimentons le site de la médiathèque par des articles de fond, des critiques. Nous intervenons sur la médiation entre les collections et les publics. Revendiquons notre rôle d'éveilleur. Nous sommes ouverts et en veille professionnelle constante. La bibliothèque est abonnée à de nombreuses revues, elle les fait connaître, revues papier ou en ligne, très spécialisées, et nous sélectionnons et valorisons des sites pointus. Nous nous sommes donc attachés à développer des collections matérielles et immatérielles avec une exigence quant au choix que nous faisons. Nous valorisons donc la diversité éditoriale, faisons connaître de petits éditeurs exigeants et plus confidentiels, travaillons avec des fournisseurs d'accès, des libraires indépendants, des spécialistes d'un domaine culturel, musicologues, documentaristes, écrivains, artistes. Car les collections ne doivent pas dormir sur les étagères. Les livres dormants sont à réveiller. Faire vivre ces œuvres de l'esprit, ces œuvres de création, telles sont nos motivations. Ainsi, nous avançons aussi de nouvelles formes de mise en valeur des collections et dans notre bâtiment médiathèque rénové en 2015, nous proposerons aux usagers, bibliothécaires du département, j'ai oublié de dire que la médiathèque départementale, c'était le centre ressources des bibliothèques du département et dédié aussi aux autres acteurs qui sont intéressés par la culture et la lecture. Donc, nous allons offrir un parcours original pour découvrir des œuvres. Nous allons concevoir des modules laboratoires, modules d'exposition, en travaillant avec des designers et des artistes. Nous expérimentons avec des moyens contraints. Nous allons créer néanmoins des modules scénographiés et mobiles autour de la littérature et du numérique, autour des sciences, des livres d'artistes et de la musique, en lien avec notre politique documentaire. Actuellement, ils sont à l'état de pré-projet, dans nos têtes. Mais ils vont se concrétiser en faisant appel à des créatifs. Et ces modules circuleront dans les bibliothèques du réseau. Voilà donc en quoi la bibliothèque contribue à faire émerger la présence artistique dans les territoires. Pour toutes nos actions, nous partons toujours de nos collections. Notre action de développement territorial consiste à mettre en synergie les différents acteurs locaux à partir des œuvres, à partir de la création contemporaine. Les projets que nous co-construisons sont axés autour de la présence artistique. Ainsi, par exemple, avec le soutien de la région Île-de-France, nous accompagnons depuis plusieurs années des résidences d'auteurs, que ce soit sur une communauté de communes pour fédérer le réseau de lecture publique, un établissement scolaire, un lycée, collège, une prison. Et il y a encore bien d'autres, on aimerait beaucoup travailler avec le secteur social. On n'a pas encore monté de résidence avec une maison des solidarités, mais ça fait partie de nos pistes. et même de ce qu'on a envie de faire vraiment. Les artistes, écrivains, philosophes invités permettent aux bibliothécaires de réinterroger leurs pratiques, permettent une mise à distance en nous offrant des temps de réflexion et de respiration, et surtout donnent chacun l'occasion de vivre des émotions esthétiques fortes. Ces résidences d'auteurs ont un impact important sur les publics et les professionnels et les bénévoles impliqués dans ces projets. Voilà, alors je ne rentrerai pas dans le détail, simplement vous dire aussi qu'on travaille au niveau des collégiens, qui est notre public cible. Le Conseil général a souhaité vraiment mettre en place un travail autour de l'accompagnement, pour le bien-être des élèves et leur épanouissement. Donc on offre 300 livres, on dote les CDI, 10 CDI par an, on va être à 70 cette année, en 2015, sur 126 CDI. Donc on leur offre des livres de poésie, de théâtre, autour des sciences et des arts, et ensuite on offre tout un panel d'actions culturelles, donc des avoirs vifs pour entrer en lecture de poésie, des atouts doc pour découvrir les enjeux du film documentaire, des écoutes actives pour être sensibilisés à l'écoute de la création musicale et contemporaine, et le cycle sciences pour croiser des vies de mathématiciens. Et toutes ces actions que nous menons, elles sont faites avec des personnes qui travaillent. Quelqu'un évoquait hier les entrepreneurs de la culture. On travaille avec des compagnies en résidence, avec des compagnies, pas pour ceux qui ne sont pas en résidence en l'occurrence, pardon, mais avec des documentaristes, avec des partenaires d'horizons divers de la culture. Voilà, j'étais un peu long.
Merci beaucoup, je vous ai un peu pressée, mais il y avait beaucoup de choses en effet à dire, merci. Je vais laisser la parole à Madame Simon, donc de l'IRTS de Lorraine, et vous allez nous présenter notamment le forum, c'est ça, de l'IRTS.
Voilà, d'accord, merci. Donc déjà, beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas aller dans le... Voilà, je vais me rapprocher déjà. Bon. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites, très très intéressantes. Alors, pour ne pas oublier, en tout cas déjà, des réactions par rapport au discours de ce que je viens d'entendre. Alors, si les médiathèques s'appuient sur les collections, dans le forum IRTS de Lorraine, on va dire, on s'appuie sur l'histoire du territoire. Je viens de Lorraine. La Lorraine, c'est une terre d'immigration, c'est une histoire... très lourde, justement de mouvements de population. Et je crois que la programmation que je vais vous présenter s'appuie en tout cas sur cette histoire. Alors c'est une histoire qu'on prend des fois en plein choc. C'est un choc, l'histoire aussi. Et par exemple, j'ai pensé là tout à l'heure, on a fait une soirée sur les demandeurs d'asile. Voilà, c'est le genre de manifestation en tout cas qu'on organise au forum. Donc maintenant, je vais revenir à peut-être au déroulé déjà de ma présentation. Alors moi, je suis cadre de formation à l'IRTS de Lorraine. Donc l'IRTS de Lorraine, c'est l'Institut Régional de Travail Social. Voilà, je remercie donc Jackie Doniol qui a pensé en tout cas que je pouvais intervenir dans ces journées autour de l'exigence culturelle. Donc déjà, social, culturel, quel pont, on va peut-être l'examiner quand je vous donnerai des éléments d'information ou de description de ce que je fais. Alors, le forum IRTS de Lorraine a une histoire aussi très lourde en tout cas, une histoire. C'est né en 86 à Nancy, à l'IFRAS de Nancy, qui était un centre de formation au travail social. Donc voilà, c'est né dans cette institution et à l'initiative du forum, je vous en parlais tout à l'heure, du forum déjà, vous voyez, c'est une assemblée, on réunit, si vous prenez le dictionnaire, le forum, c'est une assemblée qui se réunit pour parler des choses publiques. Donc ce forum est né au sein d'un centre de formation, mais à l'initiative de personnes, déjà le directeur de l'Institut régional du travail social, Pierre Achour, et puis un formateur en travail social, un éducateur spécialisé, Paul-Élie Lévy, qui vont fonder justement cet espace de rencontre. Donc 86, ça fait déjà du chemin. Je n'étais pas au début du forum, je suis au forum depuis 11 ans, voilà. Et il y a eu la fusion de deux établissements de travail social, donc celui de Nancy, l'IFRAS, et l'IRTS de Ban-Saint-Martin, Metz. Donc il y a eu fusion des deux établissements. Donc ça, c'était dans les années 2000. Et à ce moment-là, il y a, le forum s'est déplacé aussi à Metz. Donc je vais vous parler de la programmation actuelle, puisque la programmation actuelle, maintenant, n'est plus dans ce cadre associatif, parce que bon, le forum a été une association soutenue par les collectivités locales. Aujourd'hui, c'est un service, donc un service de l'Institut régional du travail social. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'histoire du forum, il faudra vous porter sur le site de l'association qui a repris la continuité du forum, qui s'appelle Forum Les Débats. Donc je vais vous parler de la programmation actuelle pour vous donner déjà une idée de ce que c'est. Voilà. Excusez-moi, je suis assez émue là, devant cette assemblée. Voilà, donc je fais affichage. Bon, voilà, c'est un petit document très modeste, mais qui va permettre de nous guider aussi et de mieux comprendre. Alors, je passe à la page. Voilà, déjà, je vous présente un peu. Donc là, il y a un comité éditorial depuis peu, donc depuis l'intégration du Forum IRT de Lorraine, a été mis en place par la direction de l'IRTS, mais aussi bon, le conseil d'administration de l'IRTS, un comité éditorial. Parce qu'il s'agissait, et ça c'est assez important, ça s'avère important, il s'agissait de dégager une certaine indépendance, une certaine liberté dans la programmation. On va dire liberté d'expression, liberté de programmation. Très tôt, dès lors que le forum n'était plus une association indépendante, eh bien, il fallait maintenir en tout cas une indépendance et pour peut-être aussi entretenir une exigence culturelle. Donc liberté de programmation, liberté d'initiative, liberté d'appréciation aussi sur les personnes qui seront invitées lors de ce forum, dans ce forum. Et puis, les thèmes aussi abordés. Vous allez voir tout de suite. Alors, je ne pense pas vous choquer, mais ça choque quand même un petit peu. On a commencé, par exemple, la programmation de ce semestre, à vous dire déjà que c'est une programmation semestrielle. C'est-à-dire, ça court de septembre à décembre. Et ensuite, on met en place une nouvelle programmation de janvier jusqu'au mois de mai à peu près. Donc il y a une à quatre manifestations par semaine à Nancy, à Metz. Et maintenant, on se déplace aussi dans le territoire. Ça devient aussi une orientation forte, en tout cas du comité éditorial, de pouvoir se déplacer dans tout le territoire lorrain. On l'a fait auparavant, donc on se déplace dans des territoires bon, que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous en avez entendu parler. Donc c'est Thionville, hein, donc du côté du bassin sidérurgique, c'est Forbach, hein, le bassin houillé, Forbach on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps, c'est Épinal, les Vosges, parce qu'il y a quatre départements en Lorraine, c'est Bar-le-Duc dans la Meuse, voilà. Donc on se déplace dans le territoire aujourd'hui et puis on met en place justement cette programmation aussi avec des partenaires. Alors des partenaires qui sont précieux puisque avec eux on va construire cette exigence culturelle, cette exigence de programmation. Et celle que je vous présente en premier, c'est la programmation qu'on met en place avec le Fonds régional d'art contemporain. Donc vous connaissez le Fonds régional d'art contemporain, c'est une institution qu'on retrouve dans les régions, qui sont financées à la fois par les régions et aussi par l'État, en tout cas par le ministère de la Culture. Et après avoir monté deux cycles, qu'on avait intitulés « Sexe, genre et coconuts », donc c'était, on abordait la question du féminisme, la question du genre, la question de la sexualité aussi. Donc c'est on l'a fait avec des personnalités intellectuelles, Elsa Dorlin, des anthropologues comme Salada d'Anglure, je ne sais pas si c'est des noms qui vous disent quelque chose, en tout cas c'est des personnalités, des gens qui en savent quelque chose. Alors là on a monté ce cycle, ce nouveau cycle, alors on tend un petit peu le dos, mais la première conférence en tout cas est encourageante. On a monté ceci qui s'intitule « Éthique et des couacs ». Donc vous avez peut-être déjà lu ce qui était écrit. Donc on travaille sur la condition animale. Donc, c'est un sujet d'actualité puisque va être discuté en tout cas de nouvelles lois ou en tout cas de nouvelles mesures législatives quant au statut de l'animal. Mais on l'aborde aussi d'une manière, on va dire, avec des philosophes, avec des anthropologues, donc pour aborder notre relation animale comme une donnée aussi anthropologique et qui met en jeu une question philosophique. Donc, je vais passer. Voilà. Donc, la première personne qu'on a invitée, c'est Florence Burga. Florence Burga, qui est une proche d'Elisabeth de Fontenay, qui a écrit Le silence des bêtes. Alors, bien sûr, on n'a pas hésité, on a invité Elisabeth de Fontenay, donc qui est la grande spécialiste de la question, la philosophe, et qui avait aussi une émission radio qui vient de disparaître, comme par hasard, qui vient de disparaître. Et donc, elle a décliné l'invitation pour des raisons de santé. Et donc, Florence Burga est venue. On a eu une très belle conférence. Et donc, il s'agissait avec elle d'aborder la condition animale, donc une autre existence à condition animale. Elle est philosophe et elle est directrice de recherche à l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Agronomique. Elle est la seule philosophe aussi dans cette institution. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais c'était pour vous, juste pour illustrer en tout cas ce partenariat qui est un partenariat précieux. On réunit dans nos assemblées, parce qu'il faut savoir que les conférences qu'on organise, tantôt à l'IRTS, tantôt au FRAC, sont en accès libre, anonyme, c'est-à-dire personne n'a décliné son identité pour entrer. Bien sûr, les travailleurs sociaux en formation sont invités, en tout cas sont bien informés sur la programmation, mais c'est ouvert au grand public. Et par exemple, pour les conférences du FRAC, ou avec le FRAC Lorraine, on a un public d'étudiants en travail social, des étudiants en beaux-arts, et puis des personnes qui fréquentent l'université populaire de la ville. Alors curieusement, par exemple, cette question-là n'intéressait pas des âges moyens, des classes moyennes. On avait affaire à des jeunes et, on va dire, des plus vieux. Voilà. Pourquoi ? Bon, alors, d'une conférence à l'autre, d'une manifestation à l'autre, on a des publics qui varient, parce que notre intérêt, c'est de susciter un intérêt, mais en tout cas qu'il y ait une libre adhésion. Alors, pas plus loin, et pour dire un autre aspect, en tout cas d'autres orientations, une autre orientation que prend aujourd'hui le forum, on invite aussi des artistes, donc on invite des universitaires, des philosophes, on invite aussi des artistes, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent maintenant, qui se posent comme médiateurs dans les quartiers populaires. Donc il y a Gerson Bettencourt qui est un photographe qui fait un travail important aussi avec d'autres associations, avec des galeries qui travaillent dans des maisons de retraite. Donc on a invité Gerson Bettencourt Ferreira qui nous a parlé de son engagement de photographe. Qu'est-ce qui se joue en tout cas dans cette pratique, dans cette expression. Alors, tout de suite, on a aussi présenté Yvain Van Stebut. Donc, là, c'est aussi une expérience intéressante. Donc, inventer son métier à la banlieue de l'art. Donc, Yvain a monté une radio dans un quartier populaire de Nancy, au Haut du Lièvre. Bon, voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans cette présentation. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une tendance, on voit qu'il y a actuellement des personnes justement qui ont une exigence, une véritable exigence, comme Yvain, qui en tout cas est aussi a soutenu une thèse en art plastique, et qui a une exigence de travail, même avec les classes populaires, je vais dire, ou même dans les quartiers populaires. Donc c'est pas c'était souvent péjoratif de dire du socio-culturel. Bon, là, je trouve qu'ils sont en train de vraiment de donner une autre tournure, une autre allure, en tout cas, à cet engagement. Alors, le forum, c'est aussi un espace de débat. On va initier aussi une formation au débat, parce que ça, c'est une orientation qu'on s'est donnée, puisqu'on s'est rendu compte que c'est ce qu'on voulait, le débat. Ce qu'on veut, c'est projeter un film, faire entendre une conférence, et puis ensuite des échanges. Mais ce qu'on aimerait, c'est le débat. C'est que, voilà, on commence à discuter le bout de gras, quoi, comment dire. Eh bien, non, c'est très difficile. Le débat, c'est la prise de parole est difficile. Oui, parce qu'on entre en formation, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, parce qu'on passe plus de temps devant la télévision qu'à discuter à table, en assemblée. Donc, il y a un véritable travail à faire. Donc, avec un collègue qui est cadre de formation comme moi, qui a monté aussi des pièces de théâtre, on va faire un travail avec la deuxième année des assistantes sociales en formation. Et on va faire un cycle. On va prendre le prochain semestre. On va avoir au moins presque 40 heures pour travailler avec elles, avec eux, sur cette prise de parole et puis faire émerger la nécessité politique aussi et de la prise de parole et du débat. Donc là, je continue pour donner un peu. Voilà, donc là, une nouvelle initiative aussi. On s'est rendu compte que, faute de débat, pourquoi pas mettre en route des regards croisés. Donc on a mis des regards croisés, ça marche assez bien là. Les regards croisés, c'est mettre plusieurs personnes l'une à côté de l'autre, leur donner la parole, Ils ne sont pas d'accord, mais ils ont le temps de s'exprimer. Sur un sujet. Là, il s'agissait des addictions. Et là, ça a très bien marché. Le public s'est bien saisi de cette brèche qu'on offre, qui est, il y a des avis, il y a des choses côte à côte. Il n'y a pas forcément l'affrontement. Il y a peut-être des choses côte à côte. Et il s'agit de relier, peut-être d'être dans une démarche complémentaire des affaires. Hein. Voilà, passer d'un raisonnement psychologique à un raisonnement sociologique. Il n'y a pas de contradiction. Au contraire, il y a une complémentarité. Voilà. Alors là, une très belle soirée qu'on a passée, Dancing in Jaffa. Ça aussi, la danse peut être une médiation. Alors là, c'est la danse de salon avec Pierre Dulaine. On a été le relais pour cette projection du Festival du film arabe de Famec. Bon. Peut-être que vous connaissez le Festival du film italien de Villerue. Non. Terre d'immigration, la Lorraine, on voit émerger justement des initiatives en lien avec cette histoire. Alors je ne vous dis pas, ces initiatives, c'est très difficile de les monter. Parce qu'on a affaire à des populations qui ont été soumises à l'organisation de l'industrie, la sidérurgie, les houillères, c'était tout un mode d'organisation sociale et n'émerge pas forcément l'initiative spontanée, l'entreprise spontanée. Donc là, voilà, on travaille depuis très longtemps avec le Festival du film arabe de Famec, donc c'est une petite commune du Val de Fensch, et on a invité Pierre Dulaine qui a monté lui-même une initiative à Jaffa, en Israël, pour faire danser les enfants juifs et les enfants arabes. Et le soir de la projection, Pierre Dulaine était présent, donc bien sûr, on a échangé avec lui sur son travail, sur son entreprise, et à l'issue de la soirée, il nous a mis, en tout cas, il nous a invités à danser, et donc nous a donné aussi un petit cours de danse. Voilà.
Je vais être obligée de vous demander de conclure.
D'accord, conclure. Je vous laisse. Vous voyez, on a des sujets aussi très sérieux, les aides à domicile, des salariés divisés, mais avec une sociologue qui vient de publier un ouvrage. La sorcellerie, les animaux, la grande guerre, mais toujours avec des personnalités justement qui nous permettent de nous élever, d'apporter. Voilà. Ah, si celle-là, je crois que Jackie Deniol l'avait remarqué, donc je la remonte. Jean-Luc Nancy, donc qui viendra, on lui a demandé de présenter, de choisir un film, de le présenter, de le commenter. Donc on passera une soirée avec Jean-Luc Nancy. Donc ça, c'est des moments exceptionnels. c'est l'économie sociale et solidaire, la bureaucratisation. Donc ça, c'est en lien aussi avec la liberté d'expression qu'on doit avoir, qu'on doit maintenir. Être soufi aujourd'hui, aussi une grande question, le soufisme devient aussi important aussi à élucider, à comprendre. Sur les toits, un film documentaire qui revient sur en tout cas les luttes sociales dans les prisons qui ont démarré à Nancy et à Toul. C'est un documentaire, hein, donc on le fait avec la Ligue des droits de l'homme et une association Cinéar. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On aura un temps d'échange donc tout à l'heure. Je laisse la parole à Nelly Margotto, entrepreneur et philosophe, et vous allez nous parler de ce que les sciences humaines peuvent apporter au monde de l'entreprise et au management.
Voilà, tout à fait. Bonjour à tous. Voilà, déjà, je voudrais relativiser un peu le terme philosophe, puisque je ne suis pas docteur ou chercheuse. J'ai fait effectivement des études de philosophie à Lyon et à Tübingen en Allemagne, mais par la suite, j'ai travaillé dans des cabinets de ressources humaines. Et j'ai monté le mien il y a 3 ans, et je reviens à ma passion pour la philosophie en lisant des auteurs qui me permettent d'éclairer justement les problématiques de l'entreprise pour accompagner essentiellement le public RH sur le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble en entreprise. Donc voilà, je suis entrepreneur dans le sens où avec mon compagnon on a créé 2 structures, une structure qui s'appelle Fédon et qui est justement spécialisée en conseil et formation pour un public RH, donc soit un public déjà installé dans la fonction, soit des étudiants, hein, je donne aussi des cours dans des écoles privées de commerce et de management. Parallèlement, j'accompagne les licenciés économiques sur leur repositionnement sur le marché du travail, sur les créations d'entreprises et tout ce qui peut leur permettre de rebondir après un licenciement dû à des causes de restructuration, etc. Donc j'ai choisi d'intervenir sur cette thématique de l'exigence culturelle dans les territoires, dans le sens où l'entreprise peut aussi apporter de la culture à ses salariés, ou en tout cas favoriser l'accès à la culture à ses salariés de différentes manières. La philosophie, c'est déjà une forme de culture, hein, puisque de par son histoire qui remonte à l'Antiquité et sa manière d'interroger aussi les évidences, on a beaucoup parlé hier du fait de prendre le temps. C'est pas toujours évident, évidemment, de le faire, mais c'est l'opportunité justement de réinterroger le quotidien et le vivre ensemble en entreprise. On a beaucoup parlé aussi du concept de l'individualisme. C'est vraiment un concept sur lequel je réfléchis énormément, puisqu'effectivement ça fait partie des questions aujourd'hui qui se posent et qui ont une grande influence sur le développement des entreprises et sur la manière d'avancer, aussi bien pour les salariés que pour les entrepreneurs. Donc parler de culture en entreprise, c'est pas tout à fait, ne pas confondre avec la culture d'entreprise, je voulais aussi y revenir, c'est 2 concepts différents. La culture d'entreprise, elle tient à différents contextes, le contexte déjà régional du territoire dans lequel l'entreprise s'est implantée. Elle tient compte de la culture professionnelle, des métiers de l'entreprise. Elle tient compte de la personnalité des fondateurs et puis de son histoire. La définition de la culture d'entreprise, c'est l'ensemble des références qui sont partagées dans l'organisation et qui ont été construites tout au long de son histoire en réponse justement aux différents événements, aux différents problèmes qu'elle a rencontrés. Donc à l'intérieur de la culture d'entreprise, on peut justement la développer, la faire évoluer par le biais de l'éthique, par le biais de la RSE dont on parlera je crois tout à l'heure, et travailler sur des valeurs communes. Et une des valeurs qui peut être mise en place dans l'entreprise, c'est justement la valeur de la culture en entreprise, justement le développement de l'accès à la culture pour les salariés, qui peut se faire justement par l'accès aux connaissances et puis aussi par un mode de management qui peut s'appuyer justement sur l'individualisme en entreprise et ce nouveau modèle de fonctionnement des salariés. Donc pour moi, les porteurs de cette culture dans l'entreprise, ce sont essentiellement les personnes qui travaillent sur la fonction RH. Quand il y a cette fonction qui est présente dans l'entreprise, dans les plus petites structures, cette fonction est surtout portée par les dirigeants. Mais ce sont les RH justement qui travaillent sur le vivre ensemble et sur le mieux vivre ensemble, par le biais déjà des recrutements, hein, des personnes qui vont choisir, de la politique de recrutement qu'ils vont mettre en place. Quels sont les profils qu'on va choisir pour faire évoluer notre entreprise? Est-ce que ce sont toujours ces moutons à cinq pattes qu'on a l'habitude de rechercher avec une expérience significative, des compétences techniques bien identifiées, du leadership, etc. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher autre chose, justement? Je travaille beaucoup avec l'Université de Strasbourg sur l'insertion du public littéraire, du public de formation un petit peu différentes et en tout cas souvent éloignées de l'entreprise à la base pour voir comment ces compétences peuvent être transférables à l'entreprise. Moi-même, quand je suis arrivée avec mes diplômes de philo sur le marché du travail, c'était pas gagné d'avance. Donc voilà, à la recherche de public soit universitaire, soit d'ailleurs qui n'a pas forcément de diplôme, mais qui peut avoir des activités dans les hobbies qui sont le théâtre, la lecture, et qui peuvent apporter aussi des choses en plus à l'entreprise. Donc ça fait partie des réflexions des RH. Les RH qui conduisent aussi la politique de formation, et dans les choix des formations qu'on peut mettre en place en entreprise, pourquoi pas aussi changer un petit peu les modes de fonctionnement sur des formations plus culturelles, ou en tout cas qui vont faire appel à de la théâtralisation dont on a parlé ces derniers jours, à des textes littéraires pour ouvrir les gens à la culture, soit pour mélanger un petit peu la culture aux objectifs managériaux, techniques qu'on peut fixer à l'entreprise. Alors avec la réforme actuelle, c'est un petit peu plus compliqué, puisque ce type de formation pouvait entrer dans le cadre du DIF, le DIF disparaissant. Ça me semble aujourd'hui un petit peu plus difficile de le mettre en place. Donc justement, ça fera partie des choix politiques et stratégiques portés par les RH en comité de direction, et qu'ils devront défendre, en tout cas s'ils le souhaitent. Les RH aussi, dans le cadre de la politique de rémunération, de reconnaissance, il y a des possibilités aussi de pouvoir proposer des activités culturelles, des séminaires, des choses, des œuvres un peu plus sociales qui peuvent être une forme de rétribution aussi pour les salariés. Les deuxièmes acteurs après les RH, ce sont les élus, notamment les élus de CE, avec qui on peut travailler sur l'accès à la culture par le biais des œuvres sociales qu'ils vont mettre en place et choisir de mettre en place dans l'entreprise à destination des salariés, sachant que les entreprises qui n'ont pas de CE peuvent aussi mettre en place ces actions sociales et culturelles. C'est l'entrepreneur à ce moment-là qui s'en charge. Il y a beaucoup de possibilités d'offrir aussi les mêmes offres qu'un CE. Alors les gros CE qui ont même des salariés, comme à la SNCF, ont quelquefois des théâtres, ont des bibliothèques. Donc là, c'est un peu plus simple. On n'a pas toujours ces moyens-là, mais il existe des structures avec qui on peut créer des partenariats. C'est le cas d'Accès Culture, par exemple, à Strasbourg, donc où je suis implantée, qui peut proposer aussi des formations, de la billetterie et un accès à la culture un peu plus fort. Et après, c'est charge aux élus de les valoriser dans l'entreprise auprès de leurs salariés. Voilà. Après, évidemment, le management, les salariés, la culture peut être développée auprès de l'ensemble du public. Je voulais revenir sur justement l'individualisme en entreprise et la question de la culture, puisque effectivement, aujourd'hui, le marché a l'évolution du marché a fait en sorte que on est face à des individus qui ont un caractère qui fait en sorte qu'ils privilégient non pas forcément les intérêts de l'institution, de l'entreprise, mais plutôt l'intérêt des individus, soit au niveau personnel, soit au niveau collectif. Un individu aujourd'hui, surtout tout au long du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est quelqu'un qui est émancipée, qui ne veut plus forcément, qui a plus forcément besoin d'une autorité au-dessus de lui pour savoir ce qu'il a à faire. Mais c'est plutôt quelqu'un qui a envie de se construire par son expérience, qui a envie de se développer. Et comme le rappellent certains philosophes comme Axel Honneth, un salarié n'a pas envie d'être vu comme que seul sous le statut de salarié dans l'entreprise. C'est une personne qui a ses attentes, ses volontés et qui a envie d'être prise en compte de manière complète, globale, dans ses aspirations. Et c'est pour ça que la législation sociale a beaucoup évolué aussi, et on privilégie aujourd'hui de plus en plus la relation personnelle. On a de plus en plus d'entretiens individuels, que ce soit les entretiens professionnels, les entretiens de suivi, les entretiens de tout type. Le salarié a besoin de ce lieu d'écoute personnel et pas seulement collectif, où il va pouvoir parler aussi de son parcours professionnel. Alors c'est à double tranchant, c'est bien de pouvoir compter sur l'entreprise pour accompagner un développement, mais ça augmente aussi la responsabilité des individus face à leur avenir, hein, puisqu'aujourd'hui les questions de développement personnel sont fortement relié à la question de l'employabilité, et l'employabilité justement oblige à une prise en charge personnelle et pas seulement de l'entreprise pour son avenir. Donc c'est pas toujours très simple, et aujourd'hui la formation et l'employabilité sont très très reliés, ce qui ne facilite pas forcément la chose côté culturel. Voilà, donc le fait de considérer les individus comme des personnes globales et non plus seulement comme des salariés, ça va pouvoir permettre aussi de mieux les connaître, et puis de comprendre quelles sont les autres compétences qu'ils vont pouvoir apporter dans l'entreprise. Hein, quelquefois, on découvre effectivement que des personnes, de par leurs activités de théâtre ou des connaissances, l'expression publique en conférence, etc., sont en capacité peut-être de pouvoir tenir des rôles qui n'étaient pas forcément prévus dans l'entreprise, ou de pouvoir être sollicités dans le cadre de concertations sur des réflexions d'avenir dans l'entreprise, sur des questions stratégiques, etc. Donc le fait de pouvoir aussi répondre à une demande de sens, hein, puisque plus on a des personnes qu'on considère justement de manière globale, plus on va être obligé de donner du sens. On en a aussi beaucoup parlé ces deux derniers jours. Mais donner du sens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement donner une direction. Le mot sens revêt deux significations. C'est la direction et la signification. Donner du sens, c'est aussi expliquer les choix de l'entreprise, si, parce que souvent les élus comme les salariés sont souvent plutôt appelés au moment de la mise en œuvre des choix stratégiques de l'entreprise, et pas forcément dans la définition de la stratégie. Mais en tout cas, le fait de pouvoir travailler sur ces questions-là permet de vraiment accentuer le fait d'aller dans le sens. Donc le travail sur la culture dans l'entreprise va permettre différentes choses, donc le développement d'un dialogue social plus ouvert, avec une communication interne coordonnée, avec des informations qui descendent mais surtout qui montent, et puis des informations transversales qui circulent, des élus plus formés aussi. On travaille à Strasbourg sur la formation des élus. Ce qui est intéressant dans mon travail, c'est que je forme aussi bien les RH que les élus. Ce qui me permet aussi de mieux comprendre les attentes des uns et des autres, et de mieux travailler aussi sur une réconciliation quand il y a des blocages, sur la formation évidemment, et puis sur la sollicitation de nouvelles compétences. Voilà. Et puis le dialogue avec l'université me semble important aussi, ou en tout cas avec des structures comme le forum de l'IRTS, etc., les bibliothèques. Je pense que ça peut être important comme développement pour les entreprises, en tout cas de la part des RH, qui sont évidemment ceux qui font développer le savoir, les connaissances, les compétences et le vivre ensemble en entreprise. Je pense qu'il y a des interlocuteurs peut-être vers qui on n'a pas forcément l'habitude de se tourner, qui peuvent être intéressés, en tout cas quand ils sont en prise de ces convictions. des coopérations avec les universités et puis aussi des universités qui montent des programmes de formation continue qui permettent justement ce dialogue. Le dialogue n'est pas toujours facile entre l'université et l'entreprise. On ne parle pas toujours le même langage, d'où la nécessité aussi de se former des deux côtés pour adopter un langage commun. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je répondrai à vos questions si vous avez besoin.
Merci beaucoup Nelly Margoton. Je laisse la parole à Caroline Bailly-Salin, donc guide conférencière en Touraine, et vous organisez des balades littéraires. Donc qu'est-ce que c'est que les balades littéraires?
Voilà, alors je vais vous expliquer ça. Avant, je veux dire que je suis très contente d'être ici pour réfléchir à cette question de l'exigence culturelle. Et je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. En fait, j'ai suivi la formation, la licence professionnelle de guide conférencière dans le cadre d'un congé de formation. Donc justement, on parlait des formations de type culturel. Alors, donc à l'issue de cette formation, j'ai obtenu ma carte de guide, c'était seulement il y a un an, et j'ai mis en place des promenades littéraires. Donc ça a commencé dans la ville de Tours, puisque c'est là où j'habite, et puis ça s'est diversifié ensuite. Alors ces promenades littéraires, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours guidé, donc celle qui est à Tours, c'est un parcours guidé dans la ville de Tours, et au cours duquel je lis des extraits d'œuvres qui sont en lien avec les lieux que l'on découvre, et puis c'est ponctué d'informations sur la vie des auteurs, sur l'histoire des lieux. Voilà. Donc, pardon. Je tiens à préciser, alors pour ce qui est de mon statut, moi je suis guide conférencière indépendante, donc je suis auto-entrepreneur. Et par contre, ce n'est pas une activité de laquelle je peux vivre, en tout cas pas pour le moment, hein, peut-être un jour, puisque j'ai fait cette formation dans le cadre d'un congé de formation, et à l'issue de ce congé, j'ai repris mon travail. Par contre, je suis passée à temps partiel pour avoir du temps pour développer cette activité. Donc si pour le moment ça m'apporte relativement peu en termes financiers, par contre c'est vraiment ça représente un épanouissement au travers des rencontres des visiteurs. Il y a de nombreux échanges vraiment intéressants, et puis aussi au travers de mes recherches, voilà, les recherches que je fais pour mettre en place de nouvelles promenades et qui me donnent envie de connaître et de découvrir à nouveau d'autres choses. Donc c'est un cercle vicieux, plus ou moins. Plus j'apprends, plus je lis et plus je veux apprendre de nouvelles choses. Et mais malgré tout, il faut, il y a une certaine... je vais y arriver. Il faut quand même, malgré tout, rester clair pour un public qui n'a pas forcément, lui, lu des tas de livres. Donc voilà, il faut réussir à, d'un côté, poursuivre des recherches et acquérir des connaissances pointues, et puis d'un autre côté, réussir à les transmettre de façon claire. Ça ne donne pas forcément l'impression ce matin que je peux y arriver, mais des fois... J'y arrive. Donc, on peut se poser la question de l'exigence culturelle au niveau du tourisme. Et elle n'est pas toujours très présente. Donc, je dirais qu'un touriste, c'est souvent donc un vacancier ou une autre personne qui quitte son univers quotidien et qui découvre des lieux qui lui sont étrangers. Et le lien avec la littérature, c'est peut-être qu'il y a beaucoup d'écrivains et d'artistes qui ont fait cette expérience du voyage, qui l'ont trouvée très formatrice et qui l'ont relatée. Donc je me sers de ces outils pour mes promenades littéraires. Et puis le lien entre la littérature et le tourisme, c'est que souvent ce touriste, ce vacancier, il profite de son temps de vacances pour lire davantage que le reste de l'année. Donc c'est juste pour deux petits liens qu'on peut trouver entre le tourisme et la littérature. Mais je disais que parfois les activités qu'on propose aux touristes manquent un peu d'exigence ou d'exigences culturelles, oui. Et par exemple, c'est juste une anecdote, mais je me suis rendue il n'y a pas très longtemps à Berlin et je voulais aller dans un office de tourisme et trouver un programme des visites guidées, soit des visites guidées de la ville, ou je sais qu'il y a des visites guidées qui sont proposées dans des musées sur différentes thématiques. Et donc j'ai vu qu'il y avait une antenne, enfin il y avait plusieurs offices de tourisme, puisque la ville est grande, et donc il y en avait un qui se trouvait sous la Fernsehturm, donc la tour de télévision. J'arrive là et grosse déception. En fait, il y avait surtout une immense boutique où là, il y avait peut-être deux personnes pour servir les acheteurs. Et il y avait un tout petit bureau avec un présentoir et quelques brochures, mais qui étaient toujours les mêmes dans des dizaines, des centaines d'exemplaires. Alors, je ne sais même plus les lieux que c'était, mais c'était certainement les incontournables du touriste à Berlin. Et il y avait... certes, il y avait quand même aussi un salarié, mais à ce moment-là, il y avait un petit panneau, le guichet était fermé. Donc, il n'y avait absolument aucune information dans un office de tourisme à Berlin sur des propositions de visite culturelle. Voilà. Donc, heureusement, je pense que pour le moment, en tout cas à l'office de tourisme de Tours, on n'en est pas à ce point-là. Mais voilà, ça pose question sur ce qui est proposé aux vacanciers, aux touristes. Et donc, je pense que ce qui est important, ce qui est à la base pour que le touriste puisse aussi se cultiver, bah, c'est de lui donner la possibilité d'avoir des informations sur ce qu'il fait, puisque le touriste, le vacancier, ce n'est pas parce qu'il est dans une autre ville qu'il a envie de faire des animations qui sont juste pour les touristes. Il peut souhaiter aller au théâtre, quand c'est dans sa langue, parce qu'effectivement, s'il est français, qu'il est à Berlin et qu'il ne parle pas allemand, ça va être compliqué. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y aurait un effort à faire pour proposer aux touristes l'ensemble des animations culturelles qui se passent dans une ville. Et ce qui me semble aussi... important, c'est de... Mais bon, je pense que d'autres personnes partagent cet avis, mais c'est que la distance n'apporte pas forcément grand-chose et que le voyage, la découverte, peut se faire pas très loin en découvrant des choses d'une manière insolite, mais aussi parfois tout simplement en se dépaysant dans des lieux qui sont à l'opposé de notre quotidien. Et moi, je me souviens de quelques jours que j'ai passé dans un petit village de Touraine, donc vraiment à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, et le fait d'être dans une maison où il n'y avait pas un bruit pendant la nuit et d'entendre le coq le matin, c'était pour moi, je crois que c'est dans les dernières vacances, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et lorsqu'on découvre, lorsqu'on part en vacances, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on ramène avec soi et ce qui nous marque pour l'avenir. Voilà, donc quelques mots sur le tourisme et l'exigence culturelle.
Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on a quelques minutes pour des échanges. Si vous avez des questions dans la salle à une des intervenantes de ce matin, et je vous demanderai de vous présenter, oui, s'il vous plaît.
Oui, Isabelle Jacob, j'ai fait une intervention hier au nom de Créa France, et mon dada c'est aussi la pédagogie. Donc j'étais très intéressée par ça. C'est pas vraiment une question, c'est plus une ouverture par les difficultés du débat, de souligner. Et je voulais juste signaler qu'il y a un praticien, un auteur brésilien qui s'appelle Paulo Freire, la pédagogie des opprimés, et qui a vraiment mis en place des petits trucs, hein, des petites méthodes pour que les gens justement puissent se réapproprier la culture et puis osent franchir le pas de la prise de parole devant un groupe en public, du débat, avec des petites modalités très simples qu'il a appelées les cercles de culture. Voilà, donc pour tous les gens, c'était juste une ouverture et vraiment, je vous invite à aller rencontrer cet auteur.
Merci Isabelle. Il y a d'ailleurs un théâtre de l'opprimé à Paris qui existe avec des troupes de théâtre qui jouent sur...
Voilà, c'est dans la lignée effectivement d'Augusto Boal du théâtre de l'opprimé, mais là c'est la pédagogie de l'opprimé.
Oui, bonjour, Adeline Mégevin, la agence culturelle du Poitou-Charentes. Donc c'est une association qui a pour mission d'accompagner les professionnels de la culture dans leur parcours et leur création d'activités, ainsi que les politiques publiques sur toutes les questions de politique culturelle et donc de lien avec les territoires. Ma question, donc c'est pour Nelly Margoton. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret d'action que vous avez pu mener au sein d'une entreprise et notamment auprès des élus de CE, parce que nous sommes en lien avec l'Inter-CE-CREDES? Et nous réfléchissons justement à la création d'un mois de la culture qui existe, je crois, dans votre région déjà. Et voilà, ça m'intéresserait d'avoir un exemple.
Alors, vis-à-vis des élus de CE, il y a plusieurs actions que l'on mène. Alors, c'est pareil, on débute, hein, donc pas encore beaucoup d'expérience à partager. La première chose sur laquelle on insiste avec les élus, déjà, c'est la partie culture socio-économique. Alors, ce n'est pas la culture dont on parle forcément, mais qui est une culture indispensable pour pouvoir négocier par la suite sur les questions de stratégie d'entreprise, pour pouvoir mieux appréhender le vocabulaire utilisé et surtout les enjeux au niveau prospectif, les enjeux au niveau économique, environnementaux, etc., puisque les élus n'ont pas tous la formation suffisante pour travailler là-dessus. Donc ça, c'est la première partie des ateliers. Et après, il y a des structures qui existent, hein, comme je parlais d'Accès Culture, il y en a d'autres, qui sont là aussi à la recherche, enfin qui sont à la disposition des élus, qui se réunissent aussi régulièrement en CA pour proposer des offres qui répondraient à des besoins. Après, les besoins, ils ne sont pas toujours exprimés, il faut aller les chercher. Là, je pense que c'est plutôt tenter aussi des choses sur des voyages un petit peu différents de ce qu'on peut proposer comme voyage en club, etc. On parlait du tourisme auprès des élus, c'est essayer de coordonner un certain nombre d'élus qui sont adhérents à ces structures pour discuter ensemble de cette offre culturelle qu'on peut imaginer en passant par ce genre de structure. Je pense, je ne peux pas parler en leur nom, mais je verrai avec mon compagnon qui est au CA, si vous voulez qu'on échange nos coordonnées pour en discuter. Mais je pense que c'est vraiment une concertation avec les élus sur l'offre culturelle, qu'est-ce qu'on peut proposer aux salariés en termes de type de billetterie, en termes d'animation culturelle, en termes de billetterie de théâtre, quelles animations, d'accès aux médiathèques, bibliothèques, etc. Mais c'est vraiment de la concertation et les choses ne seront pas forcément spontanées. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y aura des bibliothèques et des ouvertures au théâtre que les billets vont se vendre. Après, c'est vraiment une communication qui ira derrière et à faire de leur part aussi.
D'autres questions et on arrête à 10h30 pour... On a commencé en retard, donc c'est normal qu'on se donne l'heure, mais il faut qu'on essaie de rattraper et ne pas trop perdre de temps non plus. Voilà. Mais enfin, on a un peu de temps puisque William Bourdon n'est pas là, donc ça va. Alors, des questions courtes, concises.
Oui, dans le cadre de la démarche de géopolitique de l'association Complexité, je suis amenée à m'interroger sur la question de l'ingénierie culturelle. On m'a demandé d'intervenir à l'INET là-dessus. J'avoue que j'étais un petit peu choquée du terme, puisque les ingénieurs veulent, eux, sortir. Aujourd'hui, on parle d'ingénierie culturelle. Première question, est-ce que c'est du génie de la culture? Deuxième question, est-ce que vous avez regardé la question du mécénat de compétences, qui est une vraie ouverture qui peut être très intéressante, tant au plan formation qu'au plan compétences, métier? Et puis, troisième question, que font les gares à l'heure de la mobilité tout sens? J'emploie bien tout sens pour mettre en ligne, au lieu d'activités consuméristes, des activités reliées au territoire et justement la dynamique culturelle.
Que font
les gares?
Les gares, d'accord.
On ramasse peut-être deux, trois questions et comme ça vous répondrez groupé. Est-ce qu'il y a deux autres questions courtes et concises? parce que je vois un doigt qui se lève et je sais de qui il s'agit.
Je voulais poser une question à l'ensemble des intervenantes et en fait, je trouve ma question est très simple, elle est écrite pour être concise. Est-ce que finalement l'enjeu de l'exigence culturelle, paradoxalement, ça n'est pas de déverticaliser, déhiérarchiser, de façon à permettre à chacun l'accès et ensuite à la construction de sa propre hiérarchie. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on observe dans le milieu numérique, dans les Fab Labs, etc., finalement, cette économie de l'accès, et elle vient en fait prendre casser un petit peu le monde des propriétaires et des rentiers et construire un monde des usufruitiers. Et donc finalement, enfin, on va déverticaliser pour permettre une appropriation plus large.
Oui, pour avoir travaillé avec Jean-Michel Montfort, qui avait travaillé sur la ville et moi et justement la culture, ce qui me paraît, la question qui se pose, c'est quelle culture ? Est-ce que c'est la culture officielle ? Et dans ce cas-là, enfin, ça rejoint un petit peu ce dont il parle. Et dans ce cas-là, on pourrait dire dans un processus de colonialisme, hein, c'est-à-dire que c'est il y a la culture et on va jouer aux missionnaires. Hein, ou est-ce que voilà comment se passe la culture dont chacun est propriétaire? Pour la rendre visible, la valoriser, la capitaliser, voilà. Cet aller-retour.
Oui. Oh, très courte. Fab Lab, troisième lieu, tiers lieu. Et ce serait vraiment génial si ça devenait les nouvelles collectivités locales.
Oui. Marc Tirel, je suis dans le milieu des émergences et ma question elle est plutôt liée à, enfin elle complète les autres, comment sortir de logique de gavage, d'imposition culturelle et plutôt créer de l'appétence pour la culture, notamment sortir d'une sorte d'élitisme culturel et faire en sorte que la culture soit bien par le bas, donc ça complète la question des tiers-lieux en fait.
Voilà, on a ramassé tout ça, donc... 2 minutes.
Merci. Première question, c'était autour de l'ingénierie culturelle. Qu'est-ce que, si je me rappelle bien, si on veut revenir sur ça.
L'ingénierie culturelle, j'avoue que je sèche un peu là, dans mon cas. J'ai pas du tout réfléchi à la question. Et,
capitalisme culturel ou capital culturel, tout ça, on sait où on emprunte tout ça. Hein, là. Il y en a beaucoup qui ont pourvu pour la bonne cause, hein, pour ne pas citer Pierre Bourdieu. Donc oui, il y a cette thèse. Et puis, très rapidement, on est sur ce registre économique pour parler de la culture, capital culturel, accumulation, propriétaire. Enfin bon, voilà, on peut y aller hein, dans ce sens-là. Or, c'est beaucoup plus subtil que ça, je pense, la question de l'accès à la culture et même la culture. Je vois, on invite de plus en plus de philosophes dans notre programmation. Et franchement, ça marche bien, quoi. C'est-à-dire que c'est un discours auquel on est sensible, parce que c'est pas seulement l'accumulation des connaissances, c'est-à-dire accumuler, et tout ça, mais c'est comment faire travailler sa sensibilité. Alors, il y a la poésie qui nous aide aussi, mais il y a la sociologie, il y a l'ethnologie, parce qu'on peut être sensible à un discours, un bon discours sociologique, même qui emprunte à la terminologie économique. On peut être sensible parce que tout de suite, ça fait sens par rapport à sa propre histoire, à son propre engagement. Bon, tout à l'heure, j'ai mis beaucoup l'accent sur... l'immigration en Lorraine, on est tous d'ailleurs, on est arrivés sur cette terre tous. Et on est sensible, on est à fleur de peau avec ça. On aborde des questions graves et en même temps qui peuvent, justement, qu'il faut désamorcer cette gravité. On a fait venir Pape Ndiaye qui parle de la condition noire. On parle avec Paul, cet avocat pénaliste qui a écrit « Les vies obligent ». On parle aussi de l'identité juive. On parle d'identité. L'identité, c'est à la fois, on est dans une recherche dans l'identité, puis en même temps, c'est un tombeau vide, l'identité. Hein, on peut s'enfermer dans ces questions-là. Donc, je pense que la culture, c'est... Oui, c'est... Il faut éviter maintenant d'enfermer aussi la culture, quoi, dans des logiques qu'on connaît trop bien ailleurs, quoi, et revenir à une intelligence de la sensibilité.
Voilà. Oui, on arrête là. Vous voulez, non? Bon, vous voulez ajouter quelque chose, peut-être par rapport à ça ou par rapport aux questions qui ont été posées?
Oui, juste sur la question de Yassir, notamment sur les enjeux par rapport au management. Je crois que chaque organisation va construire le management dont elle a besoin. Il n'y a pas forcément de règles finalement à appliquer, comme on voit les nouvelles générations d'entreprises verticales, horizontales. C'est difficile de calquer des modèles sur toutes les entreprises, et donc le but, c'est de créer le management qui convient. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que l'autorité pour l'autorité, ça ne fonctionne plus, puisqu'on est en quête de sens, puisque les salariés ont besoin justement de comprendre un peu plus ce qui se passe, et puis d'être pris en considération non plus comme des statuts enfermés de salariés, mais dans leur personnalité complète. Donc c'est plutôt cette question-là, et ça me fait penser à une anecdote, vos questions sur quelle culture ou comment créer de l'appétence culturelle. On m'a raconté une histoire qui s'est produite justement en Alsace, dans une structure de logement social. Il y avait beaucoup de problèmes de casse, d'ordures un peu jetées n'importe où dans un des groupes de logements, et cette structure n'arrivaient pas du tout à s'en sortir, et ils se sont rendus compte dans leur personnel qu'ils avaient une personne qui faisait beaucoup de théâtre, de l'improvisation. Ça s'est vraiment fait par hasard, et du coup ils ont fait appel à ces compétences-là pour aller créer auprès de la population et notamment des enfants une pièce sur ces questions de respect de l'autre. Et voilà, ça a bien fonctionné. Donc finalement, l'accès à la culture, c'est aussi peut-être en laissant la place à la culture, que ceux qui exercent dans la culture, ont une activité, puissent la montrer aux autres, en faire un petit peu, la valoriser. Et ça donne aussi un autre aspect moins élitiste. Il y a Didier Ribon qui en parle beaucoup dans ses derniers livres, notamment Retour à Reims et le dernier que je suis en train de lire, dont j'ai oublié le nom, sur la culture des élites qui n'est pas accessible évidemment à tout le monde et qui ne donne pas forcément envie comme ça de manière spontanée aux personnes. Donc pour l'atteindre, il faut complètement sortir et quelque part... Ce qu'il explique, c'est renier son milieu d'origine. Donc, ça ne se fait pas de manière spontanée. Donc, donner l'envie par la valorisation. L'entreprise peut être un lieu, hein, on n'y pense pas forcément, de valorisation de la culture.
Merci.
Les bibliothèques ne sont pas des lieux de gavage et d'élitisme. On n'est plus du tout dans cette optique de lieu comme ça, sacralisé, avec la culture dite institutionnelle. Non, pas du tout. J'espère que j'ai essayé de le faire comprendre. Dans tous les cas, on a une vraie ouverture par rapport à ça, au fait que les cultures... Et par contre, il y a quand même deux notions. Il y a la notion de culture au sens de Bildung et la culture au sens de toutes les pratiques, toutes les cultures sont à prendre en compte. Ces deux thèses en présence sont à interroger. Mais par rapport à la jeunesse, il y va quand même d'un enjeu d'éducation, et qu'on ne part pas, on ne crée pas à partir de rien. Sans être démagogique, il faut aussi qu'ils puissent avoir accès aux œuvres du patrimoine, de l'esprit, de ce qui a constitué nos fondements et qui sont toujours valables. Travailler avec aussi les profs de latin, les latinistes, tout ce qui est la culture ancienne aussi. Travailler sur l'idée du saumon à rebours aussi, partir du contemporain pour aller vers le passé. Tout ça, c'est important d'interagir, de faire en sorte que se nourrissent pour le bien du public les cultures, celles qui se fait et celles du passé. Merci.
Alors, moi, je voudrais juste dire deux mots pour dire, moi non plus, je ne suis pas pour le capitalisme culturel. C'est pour ça que j'essaie de donner l'envie de lire local.
Merci beaucoup à toutes les quatre. Est-ce qu'on fait la pause maintenant ou est-ce qu'on fait l'intervention ? Attends, on continue avec donc Alexis Durand-Janson de l'agence Primatera et Franck Buffetot, architecte urbaniste d'Entrelieu. J'allais me tromper, c'est l'erreur à ne pas faire. Sur la question de la complémentarité entre l'ingénierie territoriale et le soutien aux porteurs de projets. Donc, vous allez présenter chacun, je pense, vos structures. Je vous laisse la parole.
Et également, du coup, à rajouter, parce qu'il y a quelques témoignages de Max Lassor qui arrive. Viens, Max. Viens. Ouais. Et de Christophe Guillot, avec Territoire Imaginaire, qui est là-bas, qui se cachait.
On se donne une demi-heure, on part sur la demi-heure.
Bon, ben bon, au revoir.
C'est ça.
Je commence ? Oui, bonjour, donc Franck Buffetot, architecte urbaniste. J'ai beaucoup travaillé pour les collectivités territoriales dans l'ingénierie privée. Je vais reprendre le terme, hein, parce que c'est très à la mode en ce moment, l'ingénierie. Et je suis chargé dans un même temps, vous comprenez pourquoi je le dis, pour le Conseil général des Deux-Sèvres, de monter des rencontres de l'ingénierie qui vont se passer début décembre et se terminer février 2015. Dans un contexte aujourd'hui qui est départemental, qui n'est pas évident, avec les élections qui approchent en 2015. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de qui on est, éventuellement, on échangera à ce sujet, si vous voulez, en dehors de ce temps-là, au niveau du repas ou autre, où il n'y aura peut-être pas forcément d'intérêt à ce qu'on échange aussi. Hein, Alors, juste, je vais juste mettre... J'ai préparé hier soir, un peu, enfin cette nuit, un peu quelque chose rapidement. Vous m'excuserez, c'est peut-être un peu imparfait, mais voilà. La fonction diaporama. Parfait. Bon. Est-ce que tout le monde voit bien là ce qu'il y a sur le diaporama? Très bien. Non, je vais essayer quand même, parce qu'au niveau du temps, de faire un pêche à coucha, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de faire un half-half pêche à coucha. Alors juste pour ceux qui ne savent pas trop, le pêche à coucha, c'est une présentation en 20 slides. Donc chaque slide a 20 secondes pour pouvoir l'exprimer. Donc je vais essayer là de faire... La moitié de la moitié, c'est-à-dire en 10 diapositives, 10 secondes. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer de le faire là-dessus. Alors, effectivement, il m'avait prévenu en technique, l'image en bas a un petit bleuté qui peut peut-être vous perturber, mais on va essayer de s'arranger sur l'affaire. Donc, vous voyez sur la première diapositive, où est-ce qu'elle est, la télécommande ? Celle-ci. Donc, vous voyez sur la première diapositive... C'est ennuyant, Régis, parce que moi, j'ai pas bien le retour. Là, l'image est très sombre sur l'ordinateur. Je ne vois pas très bien sur l'autre. Ah bon ? Bon, c'est pas grave, laissez, je vais me débrouiller. Enfin, Jackie, on aurait pu avoir une technique un peu plus poussée sur l'affaire. Je te remercie. Donc, complémentarité entre l'ingénierie territoriale et le soutien aux porteurs de projets. Donc, je vais vous prendre simplement un exemple. Diapositive suivante. Oui, c'est celle-ci. Donc, justement, sur un exemple assez concret qui est Moléon dans les Deux-Sèvres, sur comment les élus se sont portés dans l'inscription et l'acquisition d'une marque qui est notamment les petites cités de caractère. Alors, on prend cet exemple-là, mais ça aurait pu être, par exemple, Ville et Village Fleuri, ça aurait pu être tous les appels à projets qu'on peut avoir sur le territoire. Vous verrez, ça fera appel à des choses qui ont été dites hier. Troisième diapositive. Donc, sur cet exemple concret, vous avez ici la vue aérienne de Moléon, où vous voyez absolument l'ensemble très compact du bourg ancien, positionné par rapport à la rivière. Je continue parce que 10 secondes. Okay. Quatrième slide. Alors, Moléon, juste pour faire un tout petit peu d'histoire, vous le voyez sur la carte de Cassini.
est situé au cœur des guerres de Vendée et s'appelait historiquement Châtillon. Châtillon, donc, par rapport à cette histoire de son château. Alors, on voit un peu sur la carte de Cassini, vous voyez cette forme qui est un peu représentée là-dessus, mais qui est quand même importante. Diapositive suivante. Donc, un site patrimonial très, très fort et qui est marqué dans le territoire de manière importante, qui a une influence aussi sur le territoire rural proche, qui fait qu'aujourd'hui, Mauléon est redevenu Mauléon, associé des communes autour, donc qui est un bourg qui a plutôt la valeur de 2500 habitants, est une commune de 8000 habitants, avec les communes associées, avec un facteur rural très important. Sixième slide. Vous voyez ici sur la diapositive, alors je suis navré, elle n'est pas de bonne qualité, parce qu'elle était prise au moment où on a fait la visite pour l'homologation des petites cités de caractère, et il y avait beaucoup de pluie, avec le parapluie, vous voyez sur l'objectif les quelques gouttes qui apparaissent. Mais ce qui montre bien, qui renforce malheureusement sur cette image-là, c'est que les espaces publics que vous voyez ici sont fortement occupés par les voitures dans le centre-ville. Ce qui est une vraie problématique, c'est-à-dire aujourd'hui, comment ils fonctionnent là-dessus. Après, je rentrerai plus dans le débat là-dessus. Diapositive suivante. Ah non, pardon, je me suis trompé, je reviens sur l'autre. Alors, attendez, je me suis... Non, c'est bon, voilà. Alors, ça y est, excusez-moi, ça va revenir sur le... Donc, la diapositive suivante que j'ai mis en 8, il passe en 7, bon, voilà. Enfin, bref, vous voyez dessus ces commerces qui sont fermés aujourd'hui dans le centre-bourg, c'est-à-dire qu'avec la structure commerciale qui s'est portée au-delà de la partie ancienne, et aujourd'hui, vous avez ces vitrines, vous le voyez comme ici, hein, particulièrement dégradées aussi dans leur aspect. Vous voyez ici les rideaux avec le pot de fleurs, c'est-à-dire que le commerce est devenu... Le séjour, quoi, c'est-à-dire où la vie se passe à l'intérieur, si ce n'est qu'aujourd'hui, Mauléon se positionne dans un développement touristique et qu'aujourd'hui, on traverse un centre qui est très occupé par ces devantures qui sont vacantes, voire parfois détériorées. Et on voit dans l'élément de la réhabilitation que vous voyez ici à droite, avec le volet roulant qui apparaît ici sur l'extérieur, qui est un élément un peu marquant, quoi. Qui plus est, c'est du PVC, alors évidemment, vous comprenez que... Donc, on va revenir sur... Alors, vous voyez un petit jeu, excusez-moi, on revient, c'est celle qui était avant que je remets. Donc, la diapositive, le slide, c'est quand même... Quand on regarde, là, quand on s'est promené, vous voyez ici, sur un site, on est sur le site du château, là, où on voit, regarde toute la campagne alentour, et ce qui est intéressant, c'est le hameau avec l'église que vous voyez au fond, ici, qui est en réalité... l'ancien pôle artisanal bâti autour du cuir sur ce territoire-là. Oui, je sais, je fais vite, excuse-moi Virginie, mais c'est 10 secondes, je sais. Donc, qui est bâti là-dessus, mais on s'aperçoit par exemple sur cette diapositive que les pavillons qui ont été mis entre les deux faussent un peu cette image-là du territoire. Diapositive suivante, alors ça c'est une diapositive intéressante, c'est-à-dire que ce n'est pas les élus qui nous l'ont montré, celle-ci. Alors si vous me permettez, enfin, c'est une photo que j'ai prise, que j'aime beaucoup, et que j'ai vraiment un vrai plaisir, parce que j'ai vraiment une émotion en regardant ce paysage, c'est-à-dire qu'en face, ils ont le Mont Gaillard, qui était un fief au niveau des guerres de Vendée, et vous voyez, les élus ne nous avaient pas emmenés sur cet endroit-là, et puis on leur a dit, mais comment ça se passe sur votre site, etc. On les a forcés à nous emmener, donc j'ai pris cette photo, j'ai toujours un petit souvenir ému, parce qu'il y a l'architecte des bâtiments de France, qui s'est même assis sur le bord, qui a dit, ben là, il y a de l'émotion, quoi. Il se passe quelque chose, quoi. C'est vraiment... Et puis les élus nous ont dit, mais, ah bon, vous trouvez que c'est bien? Ah ben oui, quand même, enfin, vous avez vraiment... Je sais pas, vous pouvez me décrire ce que vous voyez sur la photo
Non, je ne peux pas, non.
Vous pouvez pas? Bon, dommage. Donc, juste sur la photo, c'est de se dire, là, vous avez le site, vraiment, avec les remparts, vous avez... La partie, l'ancien château qui est là, qui a disparu sur cet ensemble-là. Vous avez devant la vallée de loin, mais qui aujourd'hui n'est pas du tout mise en valeur. Et ça, on a vraiment une vraie émotion. Hein. Ça vous fait sourire, mais vraiment une vraie émotion sur ce site-là quand on est allé de l'autre côté, alors que les élus ne nous l'ont pas montré du tout. Et puis, donc dernière diapositive, parce que j'arrive à la dernière, pour dire, mais finalement, comment est-ce qu'on peut aider les élus dans ce cadre-là, alors qu'eux partent sur la notion d'acquisition d'un label qui dire, ben voilà, aujourd'hui on essaie de travailler au niveau du tourisme sur les petites cités de caractère pour ce qui est l'exemple ici, et se dire, ben essayons d'avoir cette homologation pour pouvoir mettre une pancarte à l'entrée de la ville et se dire, ben voilà, là je vais être reconnu touristiquement et je vais pouvoir véhiculer des choses d'un point de vue économique ou autre. Donc quand la commission est passée, la commission s'est dit, vous savez, vous avez une série de critères là-dessus qui est de dire, bon là j'ai mis patrimoine, tourisme, habitant par rapport à ce label ici. Donc, les élus se disent, ben nous, au niveau patrimoine, on a fait beaucoup de choses. Donc, dans le niveau, il semble à un moment que c'est important de le mettre sur nos actions. On a fait ça, ces éléments-là. La commission se dit, oui, d'accord, ils ont fait des choses au niveau du patrimoine, mais ils en sont encore qu'au niveau 1 là-dessus. On continue dans la présentation, c'est-à-dire sur ces éléments-là. Ils disent, ben, au niveau tourisme, il semble qu'aujourd'hui, on est quasiment prêt sur quelque chose. La commission se dit, oui, peut-être, mais quand même, vous avez affiché, vous faites des choses sur Internet ou autre, mais ça va pas forcément plus loin là-dessus. Alors, par contre, ce qu'ils disent, c'est au niveau des habitants, là, ils reconnaissent en disant, on n'est peut-être pas encore assez près. C'est-à-dire qu'au niveau des habitants, on est au niveau 1 là-dessus, on a encore du travail, mais on vous promet, on le fera là-dessus. Et la commission a dit, mais c'est, finalement, on se promène dans la rue, on rencontre 2-3 personnes anciens, etc., et qui commencent à nous parler de leur territoire un petit peu différemment. On se dit, tiens, c'est intéressant, cette affaire-là. C'est que presque au niveau des habitants, il se passe des choses alors que les élus ne l'ont pas mis, quoi. Et ce qui se passe dans la conclusion, après cette partie homologation, c'est-à-dire si on fait le compte, les décomptes, c'est-à-dire que les croix étant pour la commune, pour la commission, on se dit, bah, non, vous ne pouvez pas être homologué sur cette affaire-là. Alors, c'est un jeu bête hein, que je vous fais là-dessus, quoi. Mais c'est de se dire comment aujourd'hui, Mauléon, qui était dans une situation où ils se retrouvaient sur un point de blocage, comment, à un moment ou à un autre, on puisse les aider à relever la tête. Donc la commission Petite Cité de Caractère s'est pris par la main, avec la présence du CIE, l'architecte des bâtiments de France, de l'Agence de développement touristique, et s'est dit, mais messieurs et madame les élus, si vous nous parliez vraiment de votre territoire, au lieu de nous dire, on rentre dans les cases. D'accord ? Donc Mauléon, je vous le fais vite, c'est une route nationale, c'est le site du château, la petite vallée dont on a parlé, vous avez vu sur la photo qui était ici, vous avez le centre ancien, je dessine très mal, ici vous avez le quartier, qui est le quartier de Saint-Jouin, où là, historiquement, vous aviez tous les sites artisanaux au niveau du cuir. D'accord ? Ici, aujourd'hui, vous avez une route importante qui repart dans le secteur rural et ils ont des problématiques, comment se dire, on les a fait travailler là-dessus 10 minutes. Vous nous présentez en 10 minutes votre commune. Il dit voilà, ben nous les problèmes dits qu'on a ici, on a un problème de carrefour. Ici, on a un problème d'accès dans la ville. Ici, on a tous les commerces qui sont fermés. D'accord ? Et là, on a des éléments de patrimoine qu'on a valorisés. Et un site qu'on a commencé à valoriser de cette manière-là. Fort de ça, on se dit, mais c'est quoi l'histoire que vous voulez nous raconter derrière ? Et là, c'était coincé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de... c'est-à-dire que on a notre site, etc. Oui, mais c'est quoi l'histoire que vous voulez raconter derrière ? Et donc, en les faisant parler, ils sont venus à dire, mais finalement, pendant les guerres de Vendée, il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, l'État est venu installer les tanneries pour créer de l'emploi, pour un moment ou à un autre, éviter qu'il y ait cette révolution au niveau chouannerie, etc. Et quand ils ont commencé à parler de ça, ils étaient tous d'accord sur le schéma. Ils ne l'avaient jamais fait. C'est-à-dire que hier, on a parlé à un moment ou à un autre l'opération du lampadaire ou je ne sais plus d'autres termes qui étaient intéressants. Et c'était de dire finalement, on regardait ce qu'il y avait sous le lampadaire, mais on ne levait pas la tête pour voir ce qu'il y avait autour là-dessus. Et que l'ingénierie territoriale, pour la prendre comme ça, qui était via le CIE, etc., l'objet, c'était de dire, mais reposez-vous la question aujourd'hui. Ils ont mis des sous énormes dans ces affaires-là, énormes. Ils ont fait la passerelle, très bien, ils ont fait plein de choses pour les habitants, mais seulement ils ne savaient pas du tout où était leur petite histoire. On dit, on se repose la question. Et on a pris un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider ? Vous pouvez venir m'aider ? Vous pouvez venir m'aider aussi ? Vous pouvez venir m'aider ? Non, mais restez ici. Regardez ici. Je dis, cette carte, vous pouvez la tenir tous les deux et la montrer au public. Voilà. Non, mais restez, voilà. Alors, on leur a montré à un moment ou à un autre ce qui se passait, notamment sur... c'est le Vieux Condé, il me semble, dans le, avec l'espace culturel du Boulon dans le nord de la France. Qui était, mettez-le bien, parce que c'est pas droit. Voilà. Donc, c'est de se dire à un moment ou à un autre, et si vous vous racontiez sur une carte, vous, votre petite histoire. Je prends le Boulon, parce que c'est intéressant, je vais me mettre derrière. On arrivera à me voir à transparence, c'est ça l'avantage. C'est que le Boulon, par exemple, ils avaient représenté le territoire, et quelque part... Ils avaient montré que la place centrale était plus grande qu'elle n'était en réalité dessinée. Donc on leur a montré ça. Vous voyez, ce territoire s'est posé la question, quelle était leur histoire? Ils ont posé, mais quelle était leur histoire aujourd'hui, au quotidien? C'est-à-dire comment on se réinvente sa propre histoire par rapport à ce fonctionnement-là du territoire aujourd'hui. Pas se dire la grande histoire, parce que la grande histoire, ils l'ont mis derrière. C'était le système minier, le Boulon, pour savoir, ils l'appelaient le Boulon, parce que c'était les rivets de la Tour Eiffel qui étaient fabriqués à ce moment, sur cet endroit-là. Donc derrière, en transparence, ils avaient mis la grande histoire, où étaient les éléments miniers, etc. Et devant, ils avaient mis l'histoire d'aujourd'hui, comment ils se comportaient aujourd'hui. Et là, ça a commencé. Je vous remercie beaucoup, c'était parfait. Non, vous le gardez, je vous l'offre en plus. Donc, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, là, ils ont recréé cette histoire-là, mais au quotidien. Et ce qu'on propose à Moléon, c'est de se dire, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec ça? Ils ont sauté dans le panier, donc il y a des élus qui ont dit, ok. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on ne l'a pas pris par le bon bout. Et dans ces cas-là, on se repose la question de savoir qui on est et quel programme patrimonial ils ont osé culturel, mais à la limite, ces programmes, au moins, ils ont presque hésité à dire sur l'humain aussi. Quel est notre programme humain sur le territoire? Et ça, c'est important. Et on s'est aperçu dans la rue, quand, sur les habitants, c'est une vraie réalité. On a rencontré plein de gens qui étaient des anciens qui travaillaient sur le cuir, qui aujourd'hui sont prêts, avec les élus, et ça, je vais revenir là-dessus, sont prêts avec les élus de construire quelque chose là-dessus. Ils ont monté un groupe de pilotage. Cet été, ils ont mis dans les vitrines, pour ça je parlais des vitrines un peu en amont, même en faisant un peu l'imbécile, mais dans les vitrines, ils ont remis, plutôt de mettre une expo dans un coin, ils ont remis dans les vitrines ce que les uns les autres avaient récupéré, etc. Ils n'ont pas encore leur petite histoire, mais ils sont en train de se la créer autour de ça. Et alors si on dit par rapport à l'ingénierie territoriale, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus sont préoccupés. C'est-à-dire, moi j'ai bien aimé hier l'histoire du global et du local. C'est-à-dire que la petite cité de caractère, qui au début, sur le fond, est un truc extraordinaire et on les soutient là-dessus, je trouve que c'est un truc génial. Mais c'est de se dire, c'est devenu un truc quasiment avec une association nationale qui est un truc global. Donc on se dit, on fait rentrer dans des critères, mais il y a une réalité locale autour de ça. Et la Bretagne travaille beaucoup aujourd'hui autour de ça, se dire, bon, même dans ce cadre-là, comment on donne une vraie thématique? Alors ils travaillent sur l'art, sur ces éléments-là. Et c'est ce qu'on propose à Moléon, en disant maintenant, vous, dans l'acquisition de cette marque, quel est votre, ce que vous voulez y mettre là-dedans? Et que vous dire, et Moléon, ça se rapproche. On leur a dit un truc tout bête, qui était de dire, pour l'instant, vous n'avez rien fait là-dessus. Descendez un kakémono sur le long du site, vous savez, espèce de rempart où tout le monde passe au bout du carrefour, c'est-à-dire ici, et mettez ne serait-ce que dessus, cité castrale, petite cité de caractère en devenir. Et là, rien que ça, dans leurs yeux, ils se sont dit, ah oui, on n'a jamais appelé notre commune cité castrale, alors qu'ils ont une réalité spécifique là-dessus. Et c'est important, et je reviens, j'en terminerai là-dessus, c'est de se dire, c'est important au niveau des élus, de les aider. Non, alors certes, sur le quotidien, mais on peut se dire aujourd'hui que les communautés de communes vont s'équiper pour dire, sur le quotidien, la bordure de trottoir, etc., etc. C'est vrai que les habitants sont pressants, etc. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion, vous, en tant qu'élus, des accompagner là-dessus, parce que la loi dit quand même, vous êtes responsable aussi de la qualité du portage des projets que vous avez sur votre territoire. Donc, est-ce qu'on ne redonne pas l'élu là-dessus, même dans les petites communes rurales, en disant, mais je porte un projet, j'ai envie de le porter. Et dans ces cas-là, on m'aide à porter le projet de cette manière-là. Et puis, la bordure de notre temps, on trouvera un moyen pour d'autres, pour accompagner. Et qu'on se mette autour de la table, autour de ça, quoi. Et moi, je le redis par rapport à ça, de ne pas oublier l'élu. Il y a une vraie réalité, même s'il y a des porteurs de projets privés, si la petite histoire n'est pas portée par les élus, à mon avis, au bout d'un moment, je crois qu'on va à l'échec. Et il y a une vraie relation qui est importante là-dessus, et que parce qu'on a formé les élus là-dessus, mais on a aussi ceux qui accompagnent les élus, les techniciens territoriaux. Je suis navré s'il y en a dans la salle, hein, j'en fais partie de ces techniciens, etc. Mais c'est aussi de se former, nous, à sortir de dessous le lampadaire et à regarder ce qui se passe. Voilà, c'était juste, je suis navré, j'ai pris un peu de temps.
Merci beaucoup, Franck.
Merci aussi d'avoir sorti des cases et puis de nous avoir proposé une forme qui va avec, avec ton discours et qui nous fait sourire, mais qui nous fait aussi réfléchir. J'ai la parole à Alexis Durand-Janson, Primatera.
Bonjour à tous. Alors, juste un instant. Hop. Tiens. Alors, moi, justement, dans la question de ces petites histoires dont a parlé Franck, qui finalement font territoire, on a essayé de reprendre un certain nombre de points qui nous venaient spontanément. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pas un travail de 2-3 heures. On a essayé de se dire, mais finalement, tout ce parcours, qui est un projet, qui est nous-mêmes, quand on habite territoire, quand on est actif, on commence, il y a des étapes essentielles, comme quand on chemine un territoire. Et une certaine géographie. Et ce cheminement, on commençait par se dire, bah, finalement, au départ, est-ce que ce n'est pas quelqu'un ? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes ? Est-ce que ce n'est pas la question de la propre reconnaissance ? Il y avait notamment, tout à l'heure, avec le forum de l'IRTS, j'ai pu noter, comprendre le monde qui nous entoure, comprendre l'un et l'autre. Et je dirais nous-mêmes. Commençons par là. Donc là, bon, il y a des... Nous, on y a retrouvé un certain nombre de mots-clés. Sortait la spontanéité, justement, se questionner, relation justement à des histoires, non pas que l'histoire des manuels scolaires, mais des histoires, donc notion de patrimoine, je dirais, autour des valeurs, des intérêts multiples, etc. Et puis quand on avance, on arrive du côté de finalement connaître l'autre, l'un et l'autre. La question, là, justement, bah, c'est apprendre à échanger, apprendre justement à argumenter. On a des valeurs, on a des intérêts, mais on n'a peut-être pas le même avis. Donc, voilà, on se questionne, on va chercher dans les ressources, etc. On rencontre, on crée, on va s'outiller, voilà, on chemine, là, on avance petit à petit. Et puis, finalement aussi, il faut partager, il faut remettre en question, d'où le fait qu'il y a un chemin un petit peu discret, mais ce chemin, il est important. Et là, c'est la question, on partage, on est sur des faits, on a des logiques de réseau, mais après, logique d'un réseau, c'est que finalement, on cultive de l'entre-soi avec une échelle plus importante. Donc, réseau pluriel. On avance encore, et là, finalement, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons territoire ? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui habitons ce territoire et qui faisons que nous fabriquons ce territoire ? Alors, territoire de projet, territoire, voilà, au-delà de l'administratif, hein, vous l'avez bien compris, ce rapport histoire, c'est deux histoires, c'est deux types d'histoires, et finalement, une communauté de destin. C'est être soi-même, finalement, commencer par là. Moi, simplement, je vais vous présenter un projet. Alors, un projet qui part d'une personne, justement, qui a appris à se connaître. Une personne qui était à côté de Cholet, en pleine campagne, artiste, designer. Bon, il était un peu autodidacte. Il venait du paysage au départ. Il n'était pas compris dans le. Notamment, il a fait une école de paysage. On le trouvait trop artiste, trop sensible. Étrange pour faire du paysage. Il me semble que c'est pas mal. Et donc, du coup. On a commencé par... On s'est rencontrés par les logiques de réseau, c'est-à-dire que nous-mêmes, au sein de Primatera, mais enfin, je veux dire même personnellement, on se questionne, on se demande où on avance, etc. Et on rencontre cette personne, qui a un petit point, sur un réseau social, je trouve que c'était Viadeo, et cette personne-là se pose des questions. Elle a un rêve, clairement, elle a un rêve, c'est de ne plus être tout seul sur son territoire, je ne parle pas administratif, son territoire culturel, ses pratiques, voilà, il travaille autour de l'upcycling. Donc finalement, utiliser le déchet comme matière à créer. Et puis, il a aussi des besoins nutritifs, il a besoin de vivre. Quelqu'un justement qui est dans la recherche permanente, donc finalement il est très artiste, il fait de l'objet fonctionnel, mais voilà, il n'est pas connu, etc. Il a des réseaux, mais bon. Et puis, il a des attentes du système. Il se trouve qu'il y a un cluster quartier de la création à Nantes. Oui, monsieur. Un cluster. Bon. Un cluster, finalement, réseau d'acteurs. On est là pour faire ensemble, etc. Encore une grosse machine, finalement. Grosse machine, avec tous ses atouts, et on verra ensuite. Il est tout seul. Mais il a un rêve. Et finalement, ce rêve, il est au-delà. de son territoire d'aujourd'hui. Il veut faire collectif, il veut faire ensemble et il veut faire par rapport à son amour des territoires. Parce que, malgré tout, n'oublions pas, il est paysagiste au départ. Il y a cette question de sa sensibilité et de dire « je pratique, je fais du mobilier », notamment là c'est la question du mobilier à partir de rebuts industriels, etc. Mais je veux faire pour mon territoire, c'est-à-dire le lieu où je suis, je l'aime, je suis environné de personnes avec qui je me retrouve. Puis d'autres avec qui, voilà, qui me questionnent. Donc, on se rend compte, et là, il se trouve que nous-mêmes, on avait rencontré d'autres personnes qui se posaient les mêmes questions, d'autres territoires, Poitou-Charentes, etc. Et là, on se dit, bon, il faut que tu rentres dans une dynamique collective, un jeu collectif. Et donc, on va créer, finalement, ce qu'on a appelé le carré bouge, l'idée, un laboratoire d'art appliqué autour, non pas de faire collectif d'artistes, et donc, finalement, une signature collective. Non, c'est de se dire, on va penser au-delà de notre petit groupe, on va essayer de réinventer des formes d'approvisionnement, de conception, etc. Et puis, question du territoire, on lui dit, ce serait peut-être intéressant que tu te raccroches à une autre dynamique et autour d'une autre association, autour de l'aménagement des territoires. Et que finalement, tu continues cette réflexion, parce que ce n'est pas parce qu'on t'a sorti de l'école que tu ne peux pas poursuivre, finalement, une partie de ton rêve. Et on avance comme ça. Il se trouve qu'entre-temps, rencontre avec une étude qui veut faire une vente aux enchères, première du genre autour de son activité, l'upcycling. Première du genre, voilà, ce serait la première, c'est à la boule, etc. Il se dit oui, pourquoi pas, mais finalement tout ça, et tout le propos que j'ai avec cette personne aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là et ces gens-là. Donc on va essayer de faire territoire, on va essayer de faire profiter les gens du territoire. Donc on crée un appel à projet, enfin un appel à proposition de création artistique, on dit c'est national, vous avez le droit de tout proposer, que vous soyez artiste, designer, etc. Donc là, on génère une dynamique et de dire, finalement, on vient s'ouvrir. Et puis, donc là, on ouvre le champ, on ouvre un petit peu la question des réseaux. Et puis, on se dit, mais on a plein de choses sur ce territoire administratif qu'est la Loire-Atlantique. Donc, on va aller plus loin. On va dire, on a cette vente aux enchères, on a un appel à proposition, on a plus de 300 créations qui viennent de toute la France et même de Belgique. Allons plus loin. Donc là, on se dit, on va refaire du lien avec cette question de l'espace public sur lequel, voilà, il se posait des questions et finalement aussi, c'est de réseau. Et donc, on va lancer un autre appel à projet sur la question d'ateliers mobiles de création. C'est-à-dire que eux, ils sont tout seuls. Ils ont répondu, ils sont dans leur coin, ils sont comme François des débuts. Ils sont dans leur coin et finalement, bah, ils produisent des choses qui peuvent être peut-être partagées autour d'un espace plus large. Donc réassocier finalement, voilà, la partie espace public et la partie création ensemble en se déplaçant avec une forme d'itinérance qui fait qu'on ne s'arrête pas à un territoire administratif ou autre. Donc là, on produit encore une dynamique, réseau, des personnes arrivent. Et là, il se trouve que parmi ces gens-là, on a en fait une équipe qui associe un architecte et une entreprise de menuiserie. Cette entreprise de menuiserie, elle avait un projet de R&D qui était de dire, nous, on fait de la menuiserie, on est dans les fenêtres bois, etc. On a plein de rebuts. Mais on ne sait pas quoi en faire, on les a gardés dans un coin. Et là, on en a des mètres cubes entiers. De l'autre, l'architecte qui se dit, mais moi, je veux aller plus loin dans ma pratique. Je ne veux pas être juste sur des plans. Je veux produire, je veux me poser des questions et finalement être beaucoup plus en lien dans la question de la fabrication du projet. Donc, on monte un projet. Il se trouve que ce projet, il est extrêmement intéressant, qu'on le sélectionne avec un jury, une institutionnel, etc., mais aussi des gens d'ici, etc. Et tout ça, on se dit, bon, c'est bien ces dynamiques-là, mais il faudrait raccrocher dans quelque chose de plus global. Ce plus global, c'est ce qui est né au fur et à mesure. Hein. Clairement, on est dans un programme qui a évolué. C'est révolution sensible. Révolution sensible, le principe, c'est de générer de la coopération économique sur le territoire par un biais culturel. C'est-à-dire que tout ça, toutes ces actions, on les a intégrées comme voilà, le forum IRTS, finalement, c'est des temps. On a des temps un peu plus communs, le quotidien, etc. Et on va essayer de se donner de la visibilité, mutualiser des choses et ensuite de faire lien avec les dispositifs de politiques territoriales qui sont en place. Vous allez me dire, oui, ok, d'accord, on part quand même d'un intérêt individuel qui devient éventuellement un peu collectif, mais bon, le territoire, où est l'intérêt général ? Où est l'intérêt général ?
on dit ce programme-là, donc qui au départ était impulsé par François et nous-mêmes en tant qu'agence, clairement, voilà, une agence privée, etc., on va la faire porter par ces deux associations, à but non lucratif. Art appliqué, aménagement du territoire. Et donc là, à partir de là, déjà, on ouvre un peu des portes et on dit surtout, on va se baser sur des initiatives qui sont déjà en place, des projets en place. Donc cette programmation, ces temps forts, eh ben, on va s'appuyer sur l'existant. C'est-à-dire qu'on va demander à chacun sur le territoire, membre de l'ESS, voilà, traitement des déchets, etc., de proposer et de créer une brique supplémentaire. Donc ça fait pas mal de choses. On a des retours et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des retours même d'autres régions. C'est-à-dire qu'on a des personnes, Clermont-Ferrand, oui, nous voulons monter une éco-ferme. Voilà, on est un peu stupéfait parce que c'est à l'autre bout de la France, Perpignan, Bordeaux, etc. Bon. Et puis ça avance, on monte des rencontres informelles. Parce que justement, cet entre-deux, il est intéressant, c'est bien de faire du... Là, on fait finalement un peu de grand public, ça nous permet de communiquer, mais bon, finalement, qu'est-ce qu'on produit derrière? Ça avance. Ce projet-là, on se dit, bon, il faut communiquer, parce que finalement, tout ça, c'était pour faire connaître la pratique de l'upcycling et essayer de l'associer à une logique industrielle, à une logique prônée par le gouvernement, etc., sur l'économie circulaire. Voilà, l'économie circulaire. Et là, on se dit, comment faire des ponts, parce que c'est quand même un petit peu toutes ces actions, comment on a créé du lien, c'est comment faire des ponts entre cette forme de questionnement à échelle très individuelle, un acte artistique, et de l'autre, bah, finalement, des logiques de filière, d'interfilière, autour du déchet. Mais il se trouve que ce n'est pas que ça. Et donc, on chemine, on avance comme ça, et au fur et à mesure, on intègre en fait plein d'acteurs institutionnels, salon des métiers, la mission régionale des métiers d'art, le voyage à Nantes, le lieu unique, un réseau social international, Humanity, 30, 40 millions d'utilisateurs, etc., qui se posent des questions et qui se disent, bon, on est là-haut, comment on fait pour être vraiment très appliqué? Et à l'inverse, nous, bah, le problème, c'est que voilà, il y a des questions de ressources, il y a des questionnements qui sont latents, et de dire, bah, tout ça, pourquoi on n'irait pas le répliquer ailleurs, dans le domaine de l'ESS, autour des vêtements, etc. Et aujourd'hui, bah, tout simplement, c'est que cette dynamique, elle est en train de s'inscrire dans la stratégie, enfin, elle est limite en train de produire la stratégie, notamment de la mission régionale des métiers d'art, et d'un certain nombre d'acteurs autour. C'est-à-dire que, en gros, la mission régionale des métiers d'art, très ouvert, mais voilà, avec les ateliers d'art de France, etc., étaient un peu limités dans leur questionnement. Ils savaient pas trop, ils n'avaient pas trop de liens avec le terrain. Enfin, des liens, mais éparses. Et donc là, finalement, on a redonné du sens, c'est-à-dire en repartant finalement d'usages, de pratiques, de besoins, d'attentes, d'un rêve commun qui s'est construit au fur et à mesure et qui se construit jour après jour, qui est loin d'être parfait, hein, mais qui se construit jour après jour, finalement, on a redonné du sens. Et ce programme-là, aujourd'hui, il est pleinement intégré dans le programme de la mission régionale des métiers d'art, donc Chambre des métiers derrière, le conseil régional, avec qui nous avons uniquement des échanges avec les services. Principe de case, on est incasable. Donc l'élu, excusez-moi du peu, on essaye de tous les côtés, mais il ne comprend pas. Et surtout, il y a toute une part d'informalité qui fait que c'est dangereux, c'est instable. On est sur du système vivant. Et là, la différence, elle est énorme. On est sur du système vivant. Mais les services se raccrochent, parce qu'ils ont besoin de faire. Il y a une culture du chiffre, en plus de ça. Bon, voilà, à la fin de l'année, il faut utiliser le budget. Enfin, bon, bref, connaissez mieux que moi. Et donc, finalement, ça s'intègre aujourd'hui avec une logique de dire la mission régionale des métiers d'art veut qu'on développe la chose à l'échelle nationale. Attention, à l'échelle nationale, ça veut dire que du coup, on recrée de la machine. On recrée de la machine, ça va pondre des ministères, l'Institut national des métiers d'art qui s'y met, etc. Et donc là, l'idée, bah, c'est continuer à former justement une sorte d'archipel de micro-projets sur l'échelle micro-locale et de produire. Produire, et on raccroche tout ça dans un ensemble. Voilà, en gros. Et donc là, en gros, pour appuyer tout ça, parce que c'est bien, là, il y a une posture très empirique, vous allez me dire, c'est bien, il est en train de vendre sa sauce, quoi. Excusez-moi, hein, mais... clairement, on pourrait se dire ça. L'idée, c'est que dès le début, en fait, à partir du moment où on est sorti du cadre associatif, structurel, on a dit, il faut des chercheurs. il faut être dans une posture où finalement ces gens-là, on va leur donner les outils pour faire eux-mêmes et reproduire ce qu'on a produit. C'est-à-dire qu'eux, il y en a des personnes qui sont parties à Bordeaux et qui sont en train de se dire, ben, on pourrait peut-être continuer et faire la même chose. Ou autrement, bien sûr, avec toutes les spécificités. Et donc, on les forme. Donc, les chercheurs, dynamique voilà, de recherche-action, évaluation. Donc là, on se dit derrière, comment on peut aller plus loin dans la coopération économique, s'appuyer sur ce qui se fait déjà, mais en disant, tout ça, c'est bien, il y a peut-être des freins, il y a peut-être, etc. Et donc, on évalue sans cesse. Donc, on est dans de l'expérimentation constante. Donc, c'est clairement instable comme procédé. C'est un dispositif qui, nous, on l'appelle dispositif agile. Voilà. Dispositif agile parce que finalement, on crée, alors c'est peut-être pas forcément très clair dans données chiffrées, là, dans ce que je vous donne. J'ai essayé de vous expliquer le principe. Mais on s'inscrit dans des logiques de politique territoriale. Mais repenser de la base. Voilà. Et on met en capacité aussi bien François, le groupe, une multitude d'actions qui vont faire corps parce que finalement, il y a un rêve commun. Et puis, bah, tous ces acteurs institutionnels qui ne s'y retrouvaient pas parce qu'ils sont en silo. Enfin, voilà. Après, voilà, on en a parlé pendant 2 jours. Donc, il me semble qu'on est d'accord là-dessus. Il y a un problème où il y a un morcellement. C'est-à-dire que là, il faut penser avec, avec un maillage extrêmement structuré de la pensée, des services qui sont complètement cloisonnés ou presque. Donc, finalement, bah, ça, c'est une toute partie de la case. On remet dans des cases. Mais l'avantage, c'est que là, ça fait système.
Merci. Voilà. Alexis Durand-Janson, est-ce qu'il y a une réaction ou une question dans la salle pour Alexis ou pour Franck? Vous pouvez juste attendre le micro pour l'enregistrement vidéo.
Au démarrage, tu parles du besoin de François. Et puis, on arrive à cet archipel de micro-projet, mais comment tu gagnes ta vie? Qui te paye?
C'est la question qu'on me pose. Alors, on nous en pose deux.
Pouvez-vous reprendre le micro, s'il vous plaît?
Ah, oui, c'est vrai, je parle. Ouais.
À chaque fois, on nous pose deux questions. Premièrement, c'est est-ce que vous êtes... Enfin, vous êtes une agence de quel ministère? Voilà. Je pense que là, déjà, on a résumé une partie de... du questionnement. Deuxième point, c'est que justement, on est culture management par projet. On vient de l'aménagement du territoire, mais derrière, il y a eu des questionnements autour du management par projet. Justement, on n'a pas qu'une seule case. On n'a pas qu'une seule source d'appui, de financement. Les clients décisionnaires ne sont pas forcément les clients financeurs, etc. Les clients usagers, encore moins. Clairement, logique de... On a un programme avec de multitudes de lignes budgétaires. Et ensuite, on va chercher dans les cases. Le système provoque des cases. Et ben, on va chercher et on remet dans un système à cases. Mais l'ensemble est cohérent. C'est du management par projet. Alors clairement, c'est expérimental, on avance ou pas. Mais finalement, à la fin, on est sur des budgets, on est à plus de 100 000 euros. Sans parler de tout le bénévolat, etc. Mais la mission régionale des métiers d'art, c'est 2 500 euros TTC. On est d'accord? Voilà. Il y a un gros travail en réseau, en système. Et finalement, quand on avance d'un côté sur un autre territoire, sur la question des Tuileries, comme Max parle, et ben finalement, ça permet de nourrir la veille, etc., et les systèmes de mutualisation de ressources qu'on va justement ensuite utiliser à l'autre bout de la France. Mais c'est pas grave, on est dans une logique commune. Et on produit du chiffre cohérent. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on produit en termes de résultats quand on est dans des programmes de recherche-action avec financement européen, c'est que l'idée n'est pas de dire on morcelle ça par territoire administratif, on est sur un territoire de projet. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Non, ça veut dire que c'est financement européen, c'est public, c'est privé, c'est du financement citoyen, crowdfunding et compagnie. C'est extrêmement large. Et surtout, mécénat de compétences.
Une question sur votre statut.
Le statut de qui? Ah, de Primaterra. Primaterra, on était en entreprise en nom propre, on est passé en coopérative nationale, la seule de France, Oxalis. Donc logique de réseau aussi.
Peut-être un point d'ordre, parce que tu as demandé à deux personnes d'être présentes, mais il est 11h15, donc une minute chacun peut-être, ou deux, parce que là on est vraiment en retard, donc, et peut-être une ou deux questions qu'on ramasse.
Bonjour, Patrick Gagnère, Cassiopée. J'ai bien aimé la première intervention parce qu'en fin de compte, c'est la première fois que je vois ça, mais ça oblige à imaginer, ça fait travailler l'imaginaire. Donc, tu nous as obligés à nous projeter dans ton bled. Donc ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Sur la deuxième présentation, je suis d'accord sur la démarche, etc. Et c'est peut-être ça qu'il faut réinventer par rapport aux silos, par rapport aux cases dans lesquelles, effectivement, on nous met toujours. Simplement, le jeu vaut, mais la question aussi, c'était la fille de tout à l'heure, sur les deux mots du sens, d'accord ? Et donc là, quelle piste pour l'emploi ? Parce que le pays dans lequel on est aujourd'hui, c'est quand même ça la vraie question qui se pose derrière en filigrane. Donc, qu'est-ce que ça donne comme piste pour l'emploi, comme piste potentielle, etc., pour faire évoluer ? Parce que autrement, le jeu est sympathique, mais il a ses limites. Voilà.
Une question rapide et concise.
On ne peut plus rapide. Vous avez parlé, vous avez pris du temps pour parler une fois des élus, de l'autre, à un autre moment des porteurs de projets. Je voulais savoir s'il y avait une méthodologie ou des exemples que vous pourriez apporter de cas partis de la population elle-même, des habitants de la ville. Voilà. Et je voulais vous féliciter parce que je ne sais pas ce qui est le plus parlant entre les photos de Franck ou le schéma d'Alexis.
Donc, réponse rapide, présentation rapide des deux personnes quand même, parce que il faut... Et puis après...
Je continue. Je vais faire la réponse... Pardon, je vais tenter de faire la réponse en très très rapide avec l'exemple de la Tuilerie de Niolet. Donc moi, je suis Max Lassor, je suis designer, je fais 30 ans d'architecture, architecture d'intérieur, urbanisme, et puis j'ai développé un travail spécifique sur la psychologie de l'espace, et je m'intéresse beaucoup à qu'est-ce que l'espace nous fait vivre. Et donc ça fait rentrer dans la réalité de l'espace et dans la réalité des personnes et des groupes, et j'essaie de faire les jonctions. Donc à l'origine de la briqueterie de Niolet, il y a une communauté de communes et un lien de confiance entre moi et le président de communauté de communes à travers un dossier de travail concernant la mémoire du lieu et la fabrication d'un quartier écologique, environnemental et social. Et puis il me pose la question de parler de la mémoire des lieux à son conseil municipal, suite de quoi, est-ce que, comme ça s'est plutôt bien passé, il me dit, il y a une briqueterie qui appartient à la communauté de communes dont on ne sait pas vraiment pas quoi faire, qui a coûté déjà fort cher en études institutionnelles et dont on n'a plus d'argent pour la faire développer, qu'est-ce que tu en penses ? Et donc là, j'ai dit, soit on descend ce qui tombe et on fait un jardin d'architecture, soit on met un processus citoyen intérieur. Après quelques passages en comité culturel de la communauté de communes et puis au conseil communautaire, on valide le fait de faire un processus citoyen. Ça, c'était il y a déjà à peu près un an et demi, quelque chose comme ça. Et là-dessus, je fais un travail d'analyse comportementale et spatiale, qui est la pratique que je développe depuis un certain nombre d'années, sur ce dont je vous ai parlé, les relations de personnes et espaces. Et là-dedans, je fais une petite trame de 6-7 points que j'appelle la légende de Niolet, qui en fait reprend des éléments de mémoire, des rencontres, des points de repère particuliers qui sont dans l'inconscient collectif, dans la mémoire et dans les faits du présent. Et à partir de là, il y a la rencontre de Primatera avec l'équipe et du coup de coupler la démarche que j'avais avec celle que Alexis vient de vous montrer, par exemple. Et on a proposé, ça a été validé par la communauté de communes, de lancer ce processus citoyen à partir d'un groupe informel qui était plus ou moins existant, plus ou moins inexistant, et qui a fait rassemblement. Et récemment, et un des membres qui est permaculteur a investi le site depuis le printemps dans le logement du gardien. Alors là, on voit sur l'image en plus saturée la couleur, le site entier. Donc on a ici un bois, ici l'usine, on n'est plus dans le même micro, excusez-moi, ici on a l'usine, ici on a un pré, une vallée, et là on a la carrière avec ici la zone d'excavation. Voilà. Je vais essayer d'être très rapide, et un chemin de convoyage. Voilà. Et donc à partir de là, on a créé un processus avec Terre Créative, qui est un réseau aussi d'initiatives locales, et on a fabriqué la situation. Alors,
pour faire très court, avant même, avant même que les statuts ne soient rédigés, des statuts qui d'ailleurs sont aujourd'hui en association, sans, en bureau collégial, arrivent des gens qui donnent du matériel, déjà la communauté de communes qui donne des espaces de réserve ailleurs pour pouvoir fabriquer les choses. Et on peut passer, voilà, ça a passé. Voilà une photo du lieu. Donc tout est à refaire. Il y a 700 mètres carrés à reconstruire et tout est en friche autour. Donc à l'extérieur, c'est permaculture. À l'intérieur, ce sera un processus de groupe refabriquant l'espace lui-même. Et puis, ça a passé. Voilà. C'est résumé. Et puis le 1er novembre, il y a une fête de la soupe auquel vous êtes tous conviés. Pour vous rencontrer.
Merci.
Bien, bonjour. En performance, donc une demi-minute, Christophe Guillot, je suis directeur de Territoire Imaginaire. C'est une association de loi 1901 qui est basée à Nantes sur un espace de coworking. Je voulais vous présenter l'histoire d'un projet très succinctement. En fait, il se trouve que mes parents sont propriétaires de cette pêcherie, ce que vous appelez Carlet, en tout cas en région Poitou-Charentes. Et j'ai profité de cet espace-là. Mais un jour est née l'idée de me dire, mais finalement, c'est la propriété privée. Est-ce qu'on ne pourrait pas rendre accessible ce patrimoine? Et plutôt que de le rendre accessible uniquement par la pédagogie, je me suis dit, comme je suis un créatif, je peux peut-être imaginer en fait des propositions artistiques, réunir des artistes avec moi. Et donc, j'en suis venu à créer la première nuit des pêcheries en Loire-Atlantique en juin 2013. On a commencé par une rencontre avec les propriétaires pour faire un petit peu de pédagogie, l'histoire, approche scientifique et technique. Après, sur un site central, il y avait de la danse improvisée. On a eu de la musique folk avec un groupe nantais, parce que mon idée, c'était aussi d'être en harmonie avec les paysages. Vous voyez derrière la baie de Bourgneuf, Noirmoutier. Après, j'ai proposé une déambulation artistique avec des lectures toutes les demi-heures avec ces deux violoncellistes qui nous évoquaient l'histoire de la montée des eaux tiré d'un ouvrage qui s'appelle La maison en petit cube. Et puis, l'idée, c'était de rentrer donc, dans ces pêcheries. Et là, c'est une pêcherie avec une installation sonore en système quadriphonie. C'est vraiment de la performance, pareil. Si on rentre pendant 5 minutes, on a réservé à l'avance. On est 3 à 5 personnes. Et puis, il y a un deuxième groupe qui file. Là, c'est une autre forme. C'est un spectacle, du spectacle vivant, théâtre d'objets. C'est serré comme des sardines, puisqu'on est 5 dans 4 mètres carrés. Et puis, la nuit, des installations lumineuses qui révèlent aussi ce patrimoine, avec notamment des objets aussi recyclés, puisque la première photo avec les poissons, c'était des bidons en plastique transformés par les plasticiens. Et ce projet a tellement bien fonctionné, je me suis dit, mais finalement, ce patrimoine, on l'a en commun sur tout le littoral atlantique entre Nantes et Bordeaux, entre nos deux estuaires, la Gironde et celui de la Loire. Et faisons voyager ce concept. Et du coup, il a eu lieu, ce projet a eu lieu en fait cette année à Fouras-les-Bains cet été. Et puis également à Saint-Nazaire-sur-Charente. Et là, on a dû inventer un autre concept. On a inventé des voyages sonores. C'est-à-dire qu'on propose au public de passer 15 minutes dans un carrelet et de faire la sieste avec des sonorités qui font écho aussi au paysage, à l'environnement. On est toujours sur ce rapport, en tout cas, au territoire. La méthodologie, c'est vraiment, on questionne le territoire. On le révèle par des artistes qui m'entourent. Moi, je ne suis pas artiste, je suis juste, je vous ai dit, un créatif, directeur artistique. Donc, je réunis toutes ces personnes-là autour de moi pour révéler et passer de beaux moments autour de ce beau patrimoine. Voilà, c'était court.
Merci beaucoup pour cette dernière présentation.
Après la performance de Franck et le carré blanc de... Non, pas le carré noir de Malevitch, voilà. Et merci.
Alors, je propose qu'il y ait un petit temps de... Je ne sais pas si on peut appeler ça pause. Peut-être que vous pouvez aller prendre le café et revenir. 5 minutes, voilà. Et puis on continue et puis on garde les échanges pour la pause déjeuner. 5 minutes, merci.